Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr, votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. C'est incroyable, c'est formidable, c'est phénoménal, c'est l'émission 155 déjà. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons aborder un point. On s'est rendu compte hein, qu'en plus de 3 ans et demi d'existence des podcasts, on ne l'avait jamais véritablement abordé.
Il nous a fallu
au
moins une demi-heure pour être sûr. Hein.
C'est ça, on a vérifié, on est parti dans
quoi,
les archives.
On n'a pas fait ça encore.
Dans la grande bibliothèque numérique de Gameblog, nous n'avions vraiment jamais parlé du multijoueur et toutes les spécificités du multijoueur, que vous soyez à plusieurs sur un canapé ou à distance via vos connexions internet. Eh bien, le multijoueur, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce podcast 155. Et pour ça, nous ne pouvions pas, ne pas être escorté par deux spécialistes du PC. CAF, ça va CAF?
Ça va très bien toi?
Bah ça va super comme tu t'en rends compte présentement.
Ça va bien se passer.
Et si je dis présentement, c'est que nous avons aussi notre belge, Faskil. Comment vas-tu Fask?
Écoute, ça va.
Arrête
bien.
De te cacher derrière la colonne déjà.
Ça va.
Tout va bien. Alors vous allez pouvoir comme ça partager juste avec ici. Nous et avec les auditeurs hein, votre expérience du multijoueur, voilà. Puisque c'est vrai que
sur un canapé aussi.
Sur PC, c'est particulièrement riche, les expériences diverses et variées. Et néanmoins, je prends ma petite fiche car Raon a préparé un petit fil conducteur fort intéressant.
Ah, tu l'as regardé finalement?
Bah oui, forcément.
Non, il est très bien.
Définition, question, virgule, débat avec un S. Voilà, vous aurez compris, c'est le rédacteur en chef de Gameblog. Hein. Et du coup, on va parler des différents types de jeux multijoueurs. Alors, on l'a rapidement abordé, hein, le multijoueur qu'on appelle local, qui peut se faire eh bien, sur la même machine, sur la même télévision.
Avec... C'est simple, à partir du moment où vous pouvez coller une droite à votre adversaire en vrai, c'est du local.
Voilà, donc soit du split screen, soit le hot seat, et ouais, la place qui est toute chaude, c'est-à-dire quand on joue chacun son tour, ou sinon le réseau, hein, mais en LAN.
Mais oui, dans la même pièce.
Un petit peu de se mourir. Marche,
mais tu peux mettre une droite quand même.
Bah oui.
On va voir si ça existe encore fondamentalement ou pas. Hein. C'est en train un petit peu de décéder tout ça. Et le multijoueur en ligne, forcément, avec toutes les expériences un peu casual aussi, parce que finalement, il y en a énormément de jeux. Hein. Le poker, les jeux flash, les jeux à scoring, les jeux Facebook aussi. Le jeu multijoueur normal sur PC et le massivement multijoueur avec plein de spécificités. Hein. Les MMO, les MOBA, les free-to-play, le FPS aussi, les TPS, enfin
tout ça tous
ces
titres. D'évoluer.
Exactement. Et CAF et FASC, eh bien, vous allez nous aider comme ça, avoir un petit peu toute la palette des possibles du monde multijoueur. Le jeu vidéo, c'est un peu des gens qui se donnent la main virtuellement et qui s'envoient des pains numériquement. Et bien, c'est parti.
C'est beau comme formule, ça.
Podcast 155, on y va. Alors messieurs, et je me tourne vers toi forcément Raon, puisque c'est toi qui as élaboré cette définition question et débat autour du multijoueur. Oh, comment tu définirais justement le multijoueur, son attrait, sa surpuissance cosmique?
Alors là tu me poses un petit peu une colle là vite parce que j'y ai pas réfléchi, mais vite à brûle pour point, n'est-ce pas, comme ça. Je dirais que on a eu pendant très très longtemps l'habitude de jouer contre des IA un peu basiques, des trucs solo quoi, donc la console ou le PC, et que mine de rien c'est un peu comme les échecs, on fera jamais un adversaire aussi surprenant et aussi intéressant qu'un autre humain. Voilà.
Ça dépend du jeu contre moi.
Ah, ça dépend à quel jeu, ouais, c'est effectivement, ouais.
Et puis n'oublions pas aussi le fil rouge de ce podcast, puisqu'à tout moment un invité mystère peut apparaître du nom de Poufy, car nous avons sollicité Poufy qui joue énormément sur Xbox Live, sur PlayStation Network, enfin c'est un vrai fondu du multi. D'ailleurs il vous met très régulièrement des défis, vous pouvez généralement essayer d'aller tutoyer ses scores, ses high scores, donc peut-être qu'il viendra nous faire partager son expérience. On a pendant 3 jours essayé de lui dire non mais mec, viens dans le podcast, c'est pas gagné, mais on essaiera de voir. Alors on va commencer avec le multijoueur local, hein, c'est ce qu'on a dit. Donc on va dire le multijoueur essentiellement console, même si avec les LAN parties, hein, on peut avoir du local aussi sur PC, mais c'est vrai qu'on va commencer avec les split screen, les écrans partagés, hein, qu'on fait le bonheur de plein de joueurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train, je trouve, de se perdre un petit peu.
Mais
qu'est-ce que vous en pensez?
C'est Julo qui faisait cette observation avec les jeux de caisse notamment.
Tout à fait.
Je
faisais cette remarque effectivement. C'est vrai que de plus en plus, enfin, je veux dire, moi quand tu dis split screen, je pense à Mario Kart immédiatement et je pense à tous ces jeux dans lesquels on pouvait s'éclater à deux, et notamment donc les jeux de bagnole.
Ou à quatre.
À deux, voire à quatre, même, évidemment. Et c'est vrai que depuis l'avènement des modes en ligne et des consoles HD et même la génération d'avant avec surtout la Xbox. eh bien, avec ces modes en ligne qui se multiplient, bah, les split screens de base disparaissent. Mm-hmm. Voilà, parce que les développeurs font un peu l'économie. J'ai l'impression, ils se disent, ouais, comment faire tourner le jeu déjà que j'ai du mal à faire tourner avec un seul écran. Il va falloir que je réduise plein de trucs pour le faire tourner sur deux écrans, etc. Donc, ils font l'économie de ça parce qu'ils sont confortablement cachés derrière le jeu en ligne.
Ouais.
Et c'est bien dommage. Du coup, à chaque fois que je remarque dans un jeu de bagnole que je mm-hmm. teste qu'il y a un mode split screen, je ne manque pas de le noter et de le souligner trois fois environ. et parce que c'est bien de jouer à plusieurs à la maison sur le même canap. Voilà.
Mais effectivement, tu le soulignais très fréquemment lorsqu'il y a un mode split screen, écran partagé. On a une petite perte quand même de qualité.
Bien sûr.
Oui, mais c'est normal.
Et qui parfois nuit aussi au gameplay même, parce que c'est parfois ça rame un peu trop, ce genre de choses. Est-ce que finalement c'est pas un mal pour un bien? Parce que en réseau, généralement, du coup, on profite chacun chez soi, certes, mais de l'expérience visuelle, en tout cas, optimale.
Mais je pense que ce que Julo pas condamne, mais qui, enfin, ce qui l'ennuie, c'est que justement, l'un n'exclut pas l'autre. Voilà, c'est, tu peux très bien avoir un mode en ligne comme on les a actuellement, où tu bénéficies de tout l'aspect visuel du jeu à 100% et quand même un mode split screen à côté. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, dès qu'on doit faire deux écrans avec deux environnements, deux bagnoles, deux tout, voire quatre, ça bouffe des ressources, quoi.
Mais c'était quatre. Super moche, rappelle-toi, GoldenEye sur Nintendo 64.
J'ai posé la question, le remake de GoldenEye, ils ont refait du split screen ou pas?
Ils l'ont refait parce que c'était l'intérêt du truc,
oui,
justement.
Un peu ce qui avait fait le...
Mais ça reste super moche, et à l'époque, il y avait déjà une dégradation, donc maintenant, on estime que les gens, ils aiment bien avoir un truc super qualitatif.
Pas très beau, et parfois pas très lisible non plus.
Non.
C'est-à-dire que du coup, on se retrouvait, quand on jouait avec des modes à 4 joueurs, ce qui était l'apanage, par exemple, de quasiment tous les jeux Nintendo 64, elle avait ses 4 ports manettes, donc quasiment tous les jeux qui s'y adaptaient, bah, split screen à 4, mais alors on jouait dans des fenêtres, sauf les bourgeois,
non, mais
Marcus qui avait des écrans gigantesques, pouvait bénéficier d'une expérience un peu correcte.
Ouais, mais... Tu vois, mais en plus c'est débile, parce que maintenant il y a peut-être un truc à refaire, parce que la taille des écrans quand même a vachement augmenté avec les LCD, etc. Donc il y a peut-être quelque chose à faire de nos jours. Quoi.
Mais maintenant c'est du 16-9, alors couper un carré en 4, c'est facile, mais
cela
dit,
tu remarqueras que les trucs qui se jouent à plusieurs en ce moment, c'est à plusieurs persos sur le même écran, quoi. Donc Castle Crasher, tout genre de les mecs essayent de penser des gameplays où finalement tout le monde est en même temps sur les trucs où on sépare plus l'écran.
Mais c'est surtout des choses qui existaient déjà avant avec les beat'em all,
complètement
aussi sur console,
Dragon,
voilà, exactement.
Et c'est ce qui existe aussi dans tous les party games, par exemple, le fameux hot seat, donc cette place chaude où on jouait chacun son tour, généralement pour éclater des scores ou ce genre de choses. Dans les party games, par exemple, souvent, on faisait un meilleur score, après c'était à l'autre de jouer.
Ouais. On se souvient tous de Worms, par exemple,
qui est revenu sur le devant d'actualité il y a pas longtemps avec une sortie sur PC. Oui, c'était le site, c'était le plaisir de partager un jeu de stratégie tour par tour et en changeant à chaque fois de place avec les gens qui étaient dans la pièce. Il y avait d'autres variantes du je crois qu'il y avait un jeu de risque aussi qui fonctionnait sur ce principe-là.
Il y en a eu plein. Parce que de toute façon, on n'avait pas le multijoueur à l'époque, donc comme on n'avait pas le jeu en ligne, le site ça a été pendant des années un palliatif dans les jeux de stratégie. Après, on a inventé de la stratégie temps réel, donc le site était plus possible. Et puis c'est revenu parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des gens qui adoraient ça. Et après, en fonction des évolutions, c'est tombé en désuétude, c'est revenu, ça explose en ce moment avec un faux hot seat parce que c'est un truc en ligne, mais les mecs jouent les uns après les autres avec Carcassonne par exemple sur iPhone.
Carcassonne.
C'est un jeu stratégique, là-bas c'est un jeu de plateau.
C'est une sorte de risque live.
Ouais, pour simplifier, c'est ça.
Avec la cité de Carcassonne. Rien à voir.
Écoute, c'est génial parce que tu vois, j'en parle, je fais genre je connais et tout. J'ai
tu m'as bien eu, tu m'as bien feinté.
Sa carrière de politicien est proche.
Je suis au taquet, mais j'ai des potes qui en fait se relancent sur Twitter quand les mecs jouent pas assez vite pour pouvoir faire avancer la partie. Ah. Ça a l'air assez addictif quand même. Donc j'imagine que là, du coup, application, le jeu mobile qui est en retard par rapport à ce que nous on connaît sur le net avec les consoles, les PC, très bien. Hop, le hot seat revient sur le devant de la scène. Parce que c'est pratique.
Même si on reviendra tout à l'heure un petit peu, parce qu'on voit que du côté de la téléphonie mobile aussi, avec les iPhones, avec Android, c'est en train de énormément se développer. On commence même à voir des Xbox Live-like arriver sur ces téléphones pouvoir jouer en multijoueur finalement.
Les comparaisons de score et tout, c'est énorme, on en parlera tout à l'heure.
On va en parler tout à l'heure. On en parlera aussi un peu de nos expériences de jeu. Là, on vous fait pour l'instant, on est dans la partie définition et questions et débats de cher Aran. Mais tout à l'heure, on parlera vraiment des expériences de jeu. On parlera des jeux qui nous ont marqués avec des gameplays plus originaux, plus innovants, qui sont accessibles qu'en multijoueur. Et comme ça, on pourra un petit peu cerner quels ont été les grands titres multi. Avant de passer au multijoueur en ligne, il y a bien sûr, et là ça vous concerne tous les deux, FASC et CAF, le réseau en LAN. Donc ça veut dire on joue finalement à distance, mais de quelques mètres seulement avec
en réseau local. Donc le réseau local, ça a été... ça a explosé avec Duke Nukem 3D, rappelez-vous.
Ah, nos meilleures années en réseau IPX, ouais. C'était bien.
Exactement. Avec les premières versions de Doom où il n'y avait même pas de câble réseau, on utilisait des trucs parallèles, enfin, on utilisait des câbles pourris pour réussir à brancher.
Sur les ports série.
Ouais. Ouais, où tu pouvais relier que deux PC l'un à l'autre. PC,
c'était déjà la révolution, mec.
C'était mortel. Duke Nukem, des ports en série.
Un système, rappelez-vous, qu'on a eu sur. Oh, pas mal, des ports en série. Je la remets sur le devant de la scène. Ça aurait été dommage qu'elle se perde. Et en fait, on a eu ça avec les PlayStation 1. Avec,
oui, tout à fait. Les System Link, ça s'appelait.
Voilà, System Link. Ouais,
bien sûr.
Parce que bah, voilà, c'était un peu la révolution de profiter chacun de son côté.
Vous pouvez jouer à Red Alert en System Link sur PlayStation 1.
Ouais, il y avait un jeu de course aussi chez Psygnosis. Non, le combat de tank, là. Combat de truc un peu futuriste dont personne ne va se rappeler le nom. C'est un des
Crazy Ivan
jeux,
ou un truc comme ça. Hein. Comment tu dis
Crazy Ivan.
Écoutez, corrigez-nous sur les forums. C'est une technique que j'ai vue sur No Life, une petite chaîne de télé. Quand ils savent pas, ils disent ça, ça marche bien.
Mais effectivement, quand même, c'était. Il fallait du matériel, ça veut dire que sur PC, bon, bah, il faut que chacun ramène sa tour. Sur console, il fallait chacun ramène une. Enfin, sauf si vous avez 2-3 télés chez vous. Hein, mais,
En fait, c'était un truc qui marchait. Donc, il y a des mecs qui, tous les week-ends, organisaient des LAN. Donc, on appelait ça des LAN. Où les mecs
mais ça existe encore, les LAN par
J'en ai fait une il y a un mois. Donc, ça existe.
C'est moins industriel qu'à l'époque, j'ai envie de dire. C'est quand même. C'est devenu plus. C'est des particuliers qui font ça chez eux avec des potes, etc. Mais, enfin, quoi que celle auquel toi tu assistes.
Ah, si, c'est un particulier.
Quand même, hein.
C'est juste que ses parents, ils ont un château, c'est tout.
Voilà, c'est ça. C'est dans des châteaux.
De
c'est un peu des LAN de bourgeois.
C'est voilà, une LAN à Marly-le-Roi. C'est comme ça, c'est normal, on est obligé.
Mais on passe plus de temps autour du barbecue qu'en train de jouer.
Sur certains, j'ai les noms. Voilà. Ouais. Mais très honnêtement, le concept en fait a évolué. Avant, il n'y avait que ça. Donc les gens se regroupaient là, naturellement. Les colocs, en fait, les mecs étaient en coloc, etc. Ça le faisait. Il y a eu l'exemple qui était passé dans un magazine informatique de l'époque d'une tour du 13e arrondissement. En plein.
Avec qui vous avez tiré des câbles
Exactement, les mecs en fait ont fait passer des câbles réseau dans les gaines en fait, de télévision, etc., pour brancher tous les apparts entre eux, pour jouer, s'échanger des films, des trucs comme ça, tu vois, bien avant que Adopi existe. Et c'est un truc qui est tombé un petit peu en 18. Parce que bah, maintenant, tu peux faire la même chose chez toi.
De toute façon, Internet, c'est exactement la même chose que le LAN à la base, hein, sans rentrer trop dans les détails. C'est juste un réseau plus grand, quoi, où les gens sont plus à distance, mais c'est grosso modo les mêmes systèmes.
Et puis, c'est moins le drame quand un mec ne veut pas jouer au même jeu que toi au même moment.
Voilà. Mais ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est que justement, dans cet aspect multijoueur local, on a vu un petit peu que le split screen est en train de tomber un peu en désuétude. Mais c'est un peu la même chose finalement pour les LAN parties. Et pour le concept de LAN sur PC, on l'a vu avec StarCraft 2. Avec Heroes of New Wars.
New Earth. Mais tu peux le faire en fait, mais parce que maintenant il y a un truc très con, c'est que quand tu fais une LAN, t'as toujours un routeur qui va être connecté à Internet, donc toutes les bécanes de la LAN sont connectées au net. Donc finalement, tu peux jouer en LAN à StarCraft 2, il faut juste que t'aies une connexion Internet. Et ce qui est un peu débile, c'est que oui, tout le monde passe par Internet pour revenir ensuite jouer avec le mec qui est juste
à l'heure. En fait, ils organisent.
Il y a un côté voilà. On se réunit tous au même endroit, il y a un côté plus festif que de le faire sur Internet où on se parle sur Skype où c'est quand même
exactement
un peu plus
là tu peux vraiment te vanner, tu veux dire non je veux pas jouer avec
ça, a des inconvénients aussi, hein, quand on joue avec CAF par exemple c'est insupportable, c'est mieux de pouvoir le faire à distance où on peut appuyer sur le bouton mute parce que sinon ça devient très très vite énervant
plus, ouais. Et si vous me laissez gagner c'est encore pire,
voilà. Mais quand gagne ou qui perd il est énervant en fait.
C'est une question de DB.
Il faut juste pas jouer contre lui, quoi.
Non, mais je crois qu'il y a un côté nostalgique. Il y a un côté nostalgique et il y a un côté effectivement plus social de se réunir dans un endroit et puis de faire faire un barbecue et puis de pouvoir jouer à des jeux vidéo. Enfin voilà.
Mais le problème, c'est qu'il y a même certains éditeurs. Alors corrigez-moi si je dis une bêtise, mais c'est sur Call of Duty où il y a l'impossibilité de faire
Modern Warfare 2. Ouais.
Voilà, Modern Warfare 2 de faire du réseau, c'est ça.
Alors non, c'est pas que tu peux pas faire du réseau, c'est qu'ils ont enlevé une fonctionnalité majeure qui était importante pour les LAN parties, c'est la possibilité de créer des serveurs dits dédiés. C'est-à-dire consacrer une machine que tu peux paramétrer comme tu veux pour que tout le monde joue sur le même serveur. Voilà. Et
tu peux
faire ton propre serveur.
Tu peux contourner quand tu t'y connais bien. Mais
non, c'est pas très compliqué en fait. Le truc, c'est qu'effectivement, c'est quand le truc a été annoncé, parce que à la LAN où j'étais justement, il y en avait qui y jouaient. Le seul truc, c'est qu'effectivement, en fait, tu fais un groupe de personnes. Donc tu réunis les personnes comme un groupe de potes et en fait, ils vont tous se connecter ensemble pour jouer d'ailleurs contre des gens du net s'il n'y a pas assez de personnes qui jouent à Modern Warfare 2 dans la pièce. Mais
tu peux pas pour autant configurer ton, parce que à la grande époque où tout le monde jouait en serveur dédié, il y avait une forme de modération aussi. Tu pouvais changer certaines règles des parties et vraiment paramétrer ton serveur comme tu voulais.
C'est toujours le cas sur des jeux comme Team Fortress 2, les frères parce que tu peux un peu
tu fais ta
patcher source. Tes serveurs et faire un peu ce que tu veux avec, quoi.
Tu peux rajouter des modes, etc. Maintenant, effectivement, t'as des jeux où les mecs ont fait le choix de pas le faire. Après, t'as des jeux qui sont juste mal faits alors que le jeu est fantastique. Exemple au hasard, Bad Company 2, Battlefield. Parce que là, par exemple, tu arrives avec 7 potes, 8 potes, tu veux jouer ensemble. Bah, si t'arrives sur un serveur, donc là, il faut vraiment que t'aies un serveur à toi dont tu es admin si tu veux pouvoir jouer avec tes 8 potes du même côté. Parce que sinon, en fait, c'est un système de balance automatique qui fait que t'arriveras jamais à avoir les 8 personnes du même côté.
Voilà, c'est, les fameux, c'est aussi d'ailleurs l'un de leurs arguments principaux pour virer les serveurs dédiés, c'est d'apporter le matchmaking, qui est une grosse feature du moment depuis la première Xbox, en fait, c'est-à-dire l'équilibrage automatique des gens pour que tu sois pas dans, tu te retrouves pas dans des parties où tu te fais brosser les fesses dès le départ sans avoir aucun espoir de monter. Quoi.
C'est un problème récurrent dans le jeu en ligne, en fait. C'est d'arriver à équilibrer les deux équipes.
Ça reste un gros fantasme, en fait.
Et pour l'instant, on est loin ouais. d'avoir un truc qui fonctionne à tous les coins. Mais vraiment très, très loin.
Mais sur PC, où vraiment, je sais pas, mais plus de 90% des joueurs sont connectés à Internet, au moins, est-ce que vous pensez, justement, il y a une petite polémique en ce moment sur le fait que peut-être que les options LAN vont tout simplement disparaître de ces jeux parce que...
Elles ont déjà disparu, mais comme je viens de l'expliquer, les mecs les contournent, en fait. Ouais. Pour StarCraft 2, bah, il faut être connecté au net. Pour Heroes of New Earth, les mecs, on a réussi au jeu, bah, pareil, il faut être connecté pour que ton compte soit validé.
D'accord.
Donc, en fait, le truc qu'on rajoute, c'est au lieu d'avoir une seule machine, au lieu d'avoir que des machines qui sont en circuit fermé, il y a un routeur et une connexion Internet quelque part. Ego quoi. Donc ça peut être un problème si tu le fais dans une, genre, je sais pas, tu vas
avoir une
salle des fêtes. Maintenant, bah, en revanche, les salles de fêtes, elles se modernisent et puis elles ont accès à Internet quoi.
Très bien. Bon, bah, on va passer au multijoueur en ligne, ça y est, le fameux. Alors là, il y a vraiment différentes gammes de jeux. Il y en a pléthore. On va commencer avec les titres un peu casual parce que finalement, c'est une explosion hallucinante en ce moment. Que ce soit les Farmville, qui
font un succès
colossal, les jeux donc, sur Facebook. Le poker, finalement, c'est pas du jeu vidéo, mais c'est du jeu en ligne c'est du multijoueur surtout.
Mais grave. Et puis avec du fric. Pardon.
beaucoup d'argent effectivement.
Donc, ouais, non, c'est énorme. Ça, c'est le truc qui cartonne en ce moment.
Bah, surtout maintenant que la loi est passée et que tout le monde a vu les pubs à la télé.
Elle n'arrête pas. Hein.
Voilà, maintenant c'est complètement
ouvert.
C'est
preuve que ça génère un peu de blé.
Qui est une grosse baston pour ce marché-là. Et puis effectivement, après, ça peut être vraiment des choses d'apparence insignifiante. Du genre, effectivement, comme tu le mentionnais peut-être sur les jeux mobiles, plus des histoires de scoring tout bête, où tu confrontes tes scores sur un solitaire à la con en flash de tel ou tel jeu à la planète entière. Quoi. Et effectivement, ça motive un peu les gens. Alors, c'est pas directement du multijoueur au sens où on l'entend principalement pour le podcast là, puisque finalement tu joues en solo et c'est tes statistiques qui sont confrontées aux autres, plutôt que d'avoir des adversaires humains vraiment à proprement parler.
C'est du scoring mondial, quoi.
Voilà, mais il y a plein de formes de jeux comme ça, en flash ou autres, directement dans des navigateurs internet qui permettent de jouer à plusieurs.
Mais moi, ça m'a toujours fait un peu sourire ce genre de grand classement mondial. Alors, c'est effectivement très excitant de se dire qu'on est dans le top 10 mondial, etc. Mais finalement, vu que tous ces gens ne les connaissent strictement pas, ça pourrait être des bots, des robots, des IA ou quoi que ce soit. Autant je trouve ça super intéressant de se comparer à ses potes, autant à... Warduke 88 underscore 27 que je sais même pas où il habite et que j'en sais rien,
c'est clair.
À qui je parlerai jamais de ma vie, que je... bah finalement est-ce que c'est pas un peu surfait tout
ouais
ça
mais si t'es meilleur que lui quelque part malgré tout ça fait quand même plaisir quoi, ça
surtout s'il s'appelle comme ça
voilà, si en plus il s'appelle comme ça si t'es devant lui t'es content.
Par contre si t'es derrière Dark Kevin 66
faut changer de et chose. Si t'es derrière Poufy, que se passe-t-il?
Il y a du monde, ils sont habitués là. J'ai des messages de potes qui voulaient dire qu'ils te détestent d'ailleurs.
Bon allez, on va passer au titre plus clairement adressant dans ce podcast. Ça ne veut rien dire cette phrase.
J'allais te le faire remarquer ouais.
Mais bon peut-être que si vous avez la vidéo, si vous êes premium, vous voyez qu'on tourne un peu tard exceptionnellement ce podcast.
Dire qu'on tourne à la bière.
Oh non, c'est pas le genre de la maison.
Jamais.
D'ailleurs la mienne est vide.
Très bien. Donc on va passer au jeu massivement multijoueur. Hein. Les MMO, là, on a eu les annonces hein, de Blizzard. 12 ouais. millions de gens qui, chaque mois, payent de l'argent. Plus de 10 euros en moyenne hein, pour jouer à World of Warcraft.
Plus près de 14, d'ailleurs. Hein,
ouais,
de
ouais. 10. C'est quand même...
C'est énormissime. Abstinent. Et puis surtout, là, on est dans les gens... en fait, ils ont annoncé les 12 millions parce qu'en fait, le jeu est ressorti avec l'extension de l'année dernière pour nous, en fait, en Chine. Donc les fiches
Wrath of the Lich King, ton extension préférée.
Viens sortir.
Attends, j'arrive. Wrath of the Lich King.
Bah voilà.
Oh yes.
Et au bout de 3 ans et demi, voilà, c'est rentré.
Et du coup, bah ils ont un pic de fréquentation et qui va encore augmenter. Donc je serais pas étonné d'avoir un communiqué de presse dans pas longtemps, vu que le prochaine extension sort le 7 décembre. Bah ça va être
Cataclysme.
Cataclysme, c'est trop facile pour toi.
Cataclysme. c'est ça.
Ça allait pas mal.
Non mais ce qui est dingue, c'est quand même c'est des titres et même presque un genre de jeu. Alors ça existait bien évidemment, vous comprenez bien ce que je veux dire, mais avec cette ampleur, il y a 15 ans, c'était
Non,
il y avait rien.
Il y avait rien, mais en plus la techno était pas là, il y avait tout un état d'esprit qui était pas là. Enfin quand je vois
le réseau derrière,
par exemple, rien n'était prêt. Enfin la distribution le réseau était pas prêt pour distribuer le contenu, il y avait rien qui était
Mais ça c'est quand même un pan entier du jeu vidéo qui est en train de s'écrire, parce que vous allez nous le dire, mais sur PC, nous, avec nos regards un peu de béotiens du monde console, on a l'impression quand même que le monde du PC,
pour toi, ouais,
dans les chiffres, est quand même vachement phagocyté, sans aspect péjoratif, hein, mais par les MMO. L'actualité du MMO est riche, et on voit que les abonnements sont là. Quoi.
C'est clairement maintenant un des points majeurs sur le PC. Mais si on compare, là tout à l'heure on parlait des Farmville et compagnie, alors ça se joue sur PC, Mac, ce que tu veux. Mais j'ai oublié de lâcher un petit chiffre qui est rigolo, mais chez Facebook il y a genre 1600 employés. Les mecs qui font Farmville, ils sont 1200, ils viennent de construire un bâtiment pour avoir 2000 employés dans San Francisco, un truc historique qui coûte une blinde. Putain, c'est Farmville quoi. Ils ont 200 millions de joueurs actifs sur leur plateforme.
Je crois que ça rapporte
plateformes.
500 millions de dollars par mois.
C'est, je crois qu'ils gagnent plus de thunes que Facebook, ça se trouve.
C'est colossal.
C'est possible. Ouais, c'est Zynga. Hein,
c'est Zynga, ouais. C'est un truc de fou. Donc il y a ça. Donc ça, c'est vraiment déjà le premier tournant. Et je crois que les mecs qui ont vu ça arriver, effectivement, même eux qui pensaient que ça allait marcher, je crois que même eux, ils s'en remettent pas. Et pour WoW, bah, quand on regarde des interviews qu'on avait fait déjà des équipes, etc., c'est pareil, l'ampleur, ils savaient qu'ils avaient un bon produit, mais l'ampleur que ça a pris, ça a été les premiers à être surpris, parce qu'il faut savoir que celui qui était le leader du marché avant que WoW sorte, c'était EverQuest 2 déjà. Non, il est sorti
en même
temps, c'était EverQuest 1, il y avait 400 000 joueurs au top du top.
Enfin, si tu inclus la Corée, c'était Lineage.
C'était Lineage, mais Lineage 1, effectivement, à l'époque, tout le monde s'en foutait.
Il n'y avait pas encore un bon paquet de joueurs sur Ultima Online aussi à l'époque.
Si, mais alors par contre, j'ai pas les chiffres en tête du tout. Par contre, Ultima Online, mais Ultima Online, quand ils étaient au top,
il y a encore des gens qui jouent là.
80 000 joueurs, mais le problème, c'est que sur les 80 000, il y en a encore 10 000 qui jouent là.
Oui, c'est ça. Oui.
D'accord,
on le rappelle. Ça fait 11 ans qu'ils jouent au même jeu, les mecs.
Mais est-ce que justement, quand même, ces gens qui jouent au MMO jouent à vraiment d'autres choses? Parce qu'on sait que c'est des jeux qui sont très.
Bah, ça dépend à comment ils y jouent en fait.
Ouais. Mais si on s'investit vraiment, ça prend énormément de temps, c'est très chronophage.
C'est tellement chronophage que déjà tu peux pas jouer à un autre MMO. Ça va tellement loin que les mecs qui jouent vraiment à fond à MMO.
Ils jouent même pas au RPG offline.
Déjà, ils jouent pas au RPG offline, mais tu peux avoir plusieurs personnages dans un MMO. Donc il y a plein de mecs, déjà ils ont un seul perso parce que tu vois, ils font tout avec celui-là quoi. Mm. Donc ils essayent même pas les autres classes. Donc essayer un autre jeu, etc., c'est de la science-fiction. Après, t'as vraiment plein de niveaux de graduation. C'est un peu comme quand tu joues au tennis quoi. T'as un mec qui joue tous les 6 mois et t'as un mec qui joue 4 fois par
semaine.
T'es
classé ATP.
Voilà, donc là t'as vraiment après une envie ou des gens qui t'as des joueurs de MMO casu, t'as des joueurs de MMO hardcore, et là il y a vraiment la différenciation, elle se fait très facilement.
Mais chez les hardcore, c'est tous les jours, c'est de l'entraînement, c'est un travail.
Les
mecs qui raident tous les soirs.
Et en plus, dans WoW, avant les MMO, c'était un truc uniquement PVE, donc les joueurs contre des trucs faits par les programmeurs, des monstres, des boss à tuer, etc.
PVE, c'est
player versus environment.
D'accord.
Et là, avec WoW, le truc qui a été très nouveau par rapport à ce qui existait déjà, qui existait chez les Coréens en fait, pardon, mais pas vraiment chez nous, c'est vraiment le PVP, donc player versus player, joueur contre joueur, JCJ, je déteste ça en français.
Oh oui.
Et c'est un truc qui a évolué tellement que c'est devenu maintenant vraiment. Il y a des gens qui payent leur abonnement à WoW uniquement pour jouer au Battleground, donc au champ de bataille, je sais plus en français.
Ou dans les...
c'est ça.
Oui, c'est
ou
ça, le champ de bataille, oui.
Ou dans les arènes.
Ou dans les arènes qui sont là pour le coup vraiment. C'est-à-dire que. Quelque part, tout l'aspect MMO habituel passe au second plan, c'est-à-dire je vais explorer, faire des quêtes. De toute façon, quand tu arrives à ces niveaux-là, ton personnage, il est déjà à fond, il a déjà au niveau maximal, il n'a pas à aller plus loin. Mm-hmm. Et tu ne fais que finalement, en fait, c'est une sorte de transposition d'un Counter-Strike-like en arène avec ses saisons,
on est très
avec des matchs.
MOBA, en fait, à ce niveau-là.
Voilà,
c'est du MOBA.
Fasc, j'ai envie
la
de mettre
en transition.
J'ai vu un peu comment
non,
je te mets le travail là.
Mais voilà. La science de la transition, quoi.
Je vais tellement foutre la merde dans ta transition parce que justement, je voulais pas jouer. Désolé, je voulais préciser que justement ça va tellement loin avec les arènes que c'est devenu un e-sport, donc un sport électronique. Ça fait partie des trucs que Blizzard a réussi à mettre en avant. Il y a des serveurs spéciaux pendant les compétitions où tu payes.
Du e-sport,
c'est
dans World of Warcraft.
Dans World of Warcraft.
Ouais, c'est énorme.
Donc en fait, il y a même des compétitions où
tu
t'inscris. Non, mais attends, c'est les rois du pétrole, les mecs. Tu t'inscris et t'es obligé de payer pour avoir. Donc en plus de ton abonnement, tu payes un accès à des serveurs spécifiques où tout le monde va avoir le même équipement, etc., pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Mmh. Et là, du coup, on est dans la stratégie de tuer chaque personnage. Un mage peut avoir plusieurs arbres de talent, ça peut être un mage feu, un mage glace, etc. Les mecs se prennent la tête sur les forums pendant des pages et des pages de discussion sur quelle est la meilleure build, avec quels sont les meilleurs combos de classe pour aller bousiller l'équipe d'en face, etc. Il y a un de mes forums préférés qui s'appelle Elitis Bastard, comme ça. et là, tout est dit.
Ouais.
Donc, effectivement, et là, c'est du MOBA. Je te renvoie la balle.
Alors, voilà, justement, les MOBA, c'est un peu c'est l'affirmation d'une nouvelle tendance un petit peu dans le multijoueur. Qu'est-ce que c'est? Définition.
Alors,
pour ceux qui ne connaissent pas, il y a l'exemple de Crusher dont on vous a parlé.
Oui, qui est un MOBA.
Parle, hein,
effectivement,
sur
c'est multiplayer.
Je l'ai vu encore par contre, mais j'ai un ami qui bosse dessus. Donc,
l'acronyme déjà.
MOBA.
Multiplayer
définition.
Online Battle Arena.
Voilà, exactement.
Donc en gros, c'est quoi? Ben, c'est à l'origine Dota surtout, qui était un mode pour Warcraft 3.
Defense of the Ancients.
Voilà, Defense of the Ancients. Et le principe, bah, c'est un peu un champ de bataille, quoi. Donc t'as une base, t'as 5 héros, et puis, enfin, je vais pas réexpliquer ce qu'est un MOBA.
Si, vas-y. Oui, okay. Il y a plein de gens qui connaissent pas.
Tu peux. Hein.
En gros, c'est une map avec trois chemins d'accès, un chemin qu'on appelle top, un chemin qu'on appelle bottom et un chemin middle. Et t'as 5 héros, chacun de ces héros a des pouvoirs, des talents spécifiques, 3 dont un qui est plus important que les autres, qu'on appelle un ultimate. Et en gros, l'idée, c'est d'aller de l'autre côté de la map pour buter la base adverse. Forcément, ça se fait par vagues avec ce qu'on appelle des creeps, qui sont donc des créatures qui sont contrôlées par l'intelligence artificielle et qui sont un peu comme des lemmings qui avancent en fait et qui, quand tu rencontres un ennemi, tapent dessus. Voilà, le principe en gros, je pense que j'ai rien oublié.
Bah, il y a les tours, mais en fait, le système, en fait, c'est un peu c'est comme du tennis, quoi. Parce que là, on est en train de dire, il y a le nombre de pouvoirs, etc. Il y a plusieurs jeux qui existent dans le monde du MOBA. Comme ils sont tous calqués sur Dota, ouais. Finalement on retrouve ça à chaque fois. Pour l'instant, Crasher sera peut-être un des premiers. Il y a eu le truc de Chris Taylor,
Demigod, oui, c'est ça.
Qui a essayé de faire un MOBA moderne avec des super graphismes,
oui,
etc.
Ça a pas bien marché.
Je l'ai précommandé. Hein, j'étais sur la bêta, c'était de la merde. Donc voilà, rendez-moi ma thune. parce que eux, ils ont raté ce qui fait un MOBA en fait. Et c'est le nombre de héros, c'est les pouvoirs, ouais, les combos.
C'est surtout le nombre de héros.
Il y a combien de héros dans Dota aujourd'hui?
Dans Dota, il y en a. Ah, Dota, il y en a
93.
C'est pas plus?
Non, je crois que c'est 93.
Imagine 93 héros.
Plus 70 dans Heroes of New Earth.
Ouais.
LOL, je sais pas où ils en sont.
LOL.
50.
Ouais, LOL, c'est
League of Legends.
Très bien.
Qui est donc un autre MOBA inspiré de Dota qui a été développé par.
Riot.
Par MDR.
Par Riot.
Voilà. Putain, tu sais que je l'ai pas compris tout de suite. J'ai cherché.
Enfin bref, il y en a plusieurs.
Donc chaque héros avec ses pouvoirs, ses trucs, voilà. C'est une sorte de grand pierre-feuille-ciseau hyper compliqué.
En fait, le truc c'est horrible parce qu'un mec, tu lui montres le jeu, il a envie d'y jouer tout de suite, un gars qui connaît pas. Il se dit, attends, ça a l'air super rigolo et tout. Et en fait, le problème de ces titres et le problème du MOBA pour devenir grand public, c'est que la courbe d'apprentissage elle est comme ça. C'est-à-dire que c'est un...
Donc là, comme ça, vous voyez une main à la verticale.
Très vite, les principes de base sont ultra simples à comprendre. Tu comprends que il faut tuer les héros d'en face pour aller dans leur base et péter leur tour. C'est super simple à comprendre. Sauf qu'après, une fois que tu commences à jouer, tu te rends compte qu'en fait c'est un petit peu plus subtil parce que ben, justement, tu as des pouvoirs, il faut pouvoir les utiliser de la bonne manière en face des héros que tu dois rencontrer. Par rapport aux héros qui sont dans ta team aussi, t'as quelques soucis parce qu'il faut que tu coordonnes et que tu fasses ce qu'on appelle une synergie entre les héros de ton équipe. Si tu joues avec des héros qui ont des pouvoirs qui se complètent pas du tout, ben, ça va pas marcher. Donc effectivement, c'est là que ça se complique, surtout quand on a 80 à gérer.
Et puis quand tu commences à jouer, tu sais pas ce que tu vas te prendre dans la gueule avec les mecs d'en face, quoi. Donc
il faut connaître
tous ces trucs-là, c'est la merde.
Il faut connaître à peu près tous les héros pour être un vrai joueur, pour savoir ce que tu vas te prendre dans la gueule. Voilà.
Donc quand tu commences à jouer, c'est un peu comme si on venait t'expliquer les règles du tennis qui sont fondamentalement simples, mais en face t'as l'impression de jouer contre une armée de Nadal. Donc tu donc voilà, tu te dis putain,
un seul
vraiment...
ça suffit, hein, t'inquiète,
voilà,
hein.
T'imagines, ils sont 5,
hein, c'est déjà compliqué.
Donc quand tu connais pas, la courbe d'apprentissage peut être hyper démotivante. N'empêche qu'un titre, alors les deux plus canons, c'est donc League of Legends et Heroes of New Earth. C'est pour donner un exemple, c'est un jeu fait par une petite boîte qui s'appelle S2, il y a plus de 30 000 joueurs en ligne tous les soirs. Je sais pas comment ils en ont vendu, parce qu'il y a en plus quand même un gros turnover sur ce genre de jeu. Quand StarCraft 2 est sorti, il y a pas mal de mecs qui ont mis entre parenthèses pour se mettre à fond sur StarCraft 2, par exemple. C'est un peu le même genre d'esprit, c'est un peu le même genre de joueur. Ouais, hein.
C'est vampirisant.
Voilà, et donc les mecs, ils ont fait un carton commercial avec un titre qui est quand même super, super dur, avec un business model. Le jeu, il sort à $30, mais t'as un système de statistiques. Donc après, il y a des petits trucs, genre tu peux resetter tes statistiques si vraiment t'es trop mauvais,
ouais,
un fast kill.
Faut savoir qu'il y a...
T'as resetté tes statistiques ?
Je suis en train de parler d'autre chose. Oui, j'ai resetté mes stats, j'en avais marre de
traîner
dans les parties.
Et donc t'as payé pour ne plus avoir la honte.
Tu peux payer en fait pour remettre tes stats à zéro, ce qui te permet en fait surtout d'accéder à des parties.
C'est une blague. Pour remettre ses stats à zéro, faut payer.
Si tu veux mettre tes stats à zéro, tu payes. Mais il faut savoir que les mecs n'ont pas d'abonnement, hein, donc c'est pas un jeu où tu payes tous les mois.
Il n'y a pas de microtransaction.
Voilà. Ouais. T'achètes le jeu, c'est fini, quoi. Pour eux, ils n'ont plus de rentrée financière.
Mais si tu veux rejouer contre des joueurs débutants, t'es obligé de resetter tes stats, en fait, c'est ça ?
En fait, c'est ça le problème. C'est que moi, je me suis pris trop de défaites dans la gueule et que donc je suis descendu.
T'avais honte, on peut le dire. Attends, mais entre nous, t'avais honte.
Non, mais là, justement.
Tu vivais mal.
Non, mais surtout, on arrive au matchmaking, on arrive au problème du matchmaking. Et en fait, il était viré des parties, du coup, parce que les mecs voulaient plus jouer avec lui.
Tu te retrouves dans des parties et ça va être ma fête. tu te retrouves, merci Kef. Tu te retrouves dans des parties où les mecs sont à 1200 et donc forcément on pas un niveau qui te satisfait et ben tu te fais un peu chier et puis tu restes dans
t'avais qu'à être bon à la fois, j'ai envie de dire. Un niveau qui ne me satisfait pas, attendez.
Il faut savoir qu'on joue, on joue sur des parties avec les gens de Geekzone où c'est des parties qui sont pas fondamentalement équilibrées et où on s'est pris quand même aussi des.
En fait, ce qui est génial, c'est que c'est un jeu où tu gueules plus fort sur les mecs de ton équipe que sur les mecs d'en face. Parce que y a règle de base, déjà, c'est jamais de ta faute quand ton équipe perd.
Exactement.
Sinon, je l'applique à la lettre.
C'est comme en politique, c'est pareil.
C'est exactement ça. Et après, derrière, c'est pas parce que les mecs jouent mieux que toi en face, c'est parce que t'es. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais et, c'est assez. Un, c'est faut jouer avec des vrais potes parce que.
Oh là là, oui ou pas, justement.
C'est un, jeux, c'est un des jeux où vraiment tu finis par te pourrir, quoi, c'est évident. Et après, quand ça se passe bien, c'est genre yeah, yeah. Et c'est dans les deux sens. Le stress, c'est vraiment à double tranchant. Mais pour moi, en 15 ans de jeu réseau, c'est un des trucs où, qui me procure le plus de sensations. C'est vraiment.
Ouais, mais alors, le problème, c'est que tu as effectivement une barre à passer parce que la plupart d'entre eux, Crasher le sera peut-être moins de ce qu'on a pu voir pour l'instant. Il a l'air d'être beaucoup plus facile d'accès que ceux-là.
C'est une bonne méthode.
League of Legends est relativement accessible par rapport à Heroes of New World. En fait, il est très facile. Il est plus facile à prendre en main parce qu'en fait, les. Enfin, moi, j'y ai pas beaucoup joué, je pense.
Moi, j'y joue beaucoup et je prépare un papier pour Gameblog. Je
veux faire non un petit... Arrête de dire ça, arrête de dire
si,
ça.
Si, non tu le dis. Attention, instant émotion.
Oh là là.
Il est actuellement. Un horaire précis pour vous, pas le même que le nôtre.
Un jour de grâce.
Caf prépare un papier sur
League of Legends.
Oh non, my god.
En fait, je l'ai défoncé, j'ai fait le test.
Mais les 15 autres d'avant que t'avais dit que tu ferais,
je les ai fait.
Non.
Si, si.
Non.
Ah, si.
Je me souviens même plus ce que c'était d'ailleurs.
Réécoute les podcasts, tu verras.
Bon, on en
parle. C'est ce que je vais faire, tiens.
Non, par contre, le truc, c'est que je l'avais défoncé dans le test, et du coup, j'ai regardé, effectivement, parce qu'il y a plein de trucs qui m'énervent, mais après, quand on pige, là, ils viennent d'avoir 5 awards, par exemple, sur les...
C'était quoi? C'était les... Merde, je me souviens plus.
Game design, je sais plus quoi. Merci, truc, voilà, tu m'aides vachement.
La GDC Texas, là?
Si, si, c'est ça, celle
la
qui
GDC au
lieu,
Texas, ouais.
Voilà, c'est ça, la GDC au Texas. Et du coup, ils étaient récompensés pour, déjà, le titre, mais le côté...
Oui, parce que LOL, c'est quand même un bon titre.
Mais justement, le fait de comment arriver à gagner de l'argent avec un truc qui est gratuit au départ. Et avec tous les services associés, parce que tu achètes les héros en fait chez eux, tu achètes les pouvoirs.
Il faut absolument qu'on étudie ça pour Gameblog.
On va se faire un moment.
Faire gagner de l'argent avec un truc qui est gratuit au départ.
Ouais. Et ils sont très très malins. Et mine de rien, quand on y joue, moi j'y joue quand je viens de perdre à Heroes of New World.
Ça détend.
Ça me détend.
C'est ça.
Le jeu, je le trouve super long. Je fais ça va mieux, là, c'est facile. Et
alors, alors forcément on pourrait aussi continuer à parler longuement des différents styles de jeux multijoueurs en ligne sur PC, ça abonde de partout et puis sur console aussi, les FPS, les TPS,
le tailleur le plus joué je pense,
les Counter Strike et compagnie,
on
mais
sait combien ça fait
Halo
3,
connaissez.
Gears 3 et tout ça, c'est
monstrueux, ouais. Ça permet aujourd'hui de faire durer la durée de vie justement de ces titres et parfois même de se concentrer carrément dessus parce que on voit des titres comme Call of Duty avec des campagnes solo finalement assez courtes,
justement,
mais une durée de vie
là-dessus.
Qui peut durer plus d'un an parce que les mecs reste vraiment sur les multi à gogo quoi.
Tu vois les ventes même sur les, moi j'étais épaté, c'est Halo, quand le Halo Reach je me dis tiens je vais l'essayer et tout, c'est cool, je vais essayer en multi, et en fait je venais de finir la campagne. Moi j'ai perdu du temps en fait parce que tous les mecs qui jouent en multi ils étaient déjà level 1000,
ils connaissaient les maps et tout,
mais c'est un truc de fou,
enfin level 1000 tu t'en fous, en même temps c'est que du cosmétique,
c'est du cosmétique, mais par contre ils ont les réflexes au niveau de la map, comment courser, etc.
Et c'est vrai que c'est très très important dans le jeu en ligne, et c'est pour ça que c'est chronophage aussi, c'est que dès que tu connais bien une map, quel que soit le genre de jeu, c'est valable aussi pour les stratégies temps réel genre StarCraft, etc. Tu connais les maps, les évolutions, etc. Dès que tu connais des choses par cœur et que tu acquiers des réflexes à force d'entraînement, t'es meilleur et donc tu prends plus de plaisir, quoi, parce que tu t'en sors vachement mieux.
StarCraft,
tu connais les faiblesses du jeu aussi, tu connais les petits raccourcis, les endroits où tu peux aller qui sont pas vraiment accessibles pour les gens qui jouent que pour la première fois, par
les
exemple.
Les bonnes planques de snipe, pour rester comme une grosse campouse.
L'expérience.
Il
n'y
a rien à
l'expérience.
Faire. C'est pour être vraiment bon en multi, c'est un peu la recette, quoi. Il faut jouer beaucoup, souvent, voilà.
Bah écoutez messieurs, après 33 minutes de podcast, on peut dire que l'instant définition est clos. On va donc passer à l'instant
on est comme ça,
débat,
on est...
histoire que pour toi aussi, auditeur, qui avait oublié que Julo était présent dans ce podcast, tu puisses entendre le son de sa voix. On va poser des grandes questions.
On va pouvoir parler des jeux avec conducteur de bus.
Bah écoutez, fort bien. Ah Julo, tu es donc ici. Bon alors on va poser plein de questions et puis tous là autour de, j'ai failli dire la table à repasser, mais non.
Ah le vieux Roland,
c'est ça. la table de mix, eh bien on va pouvoir tous y répondre et donner chacun son point de vue. Alors messieurs déjà, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut vraiment sortir des gros jeux, des gros blockbusters sans mode multijoueur à l'intérieur. On l'a vu avec des exemples très simples, hein. Le dernier BioShock, dans le premier il n'y avait pas de multi, dans le deuxième ils en ont rajouté un. On le voit dans plus en plus de jeux. Dead Space par exemple, qui n'avait pas de multi dans son premier jeu et qui marchait très bien sans. Il y a un mode multi. Maintenant il y en a quasiment tout le temps maintenant. Refais dodo de jeu.
Je voulais tourner la question autrement, c'est est-ce que ça vaut la peine de passer du temps à développer un multi qui sera pas joué derrière, parce que franchement BioShock 2 il est pas joué, hein, en multi. Clairement. Alors il y en a un dedans, mais
il y a beaucoup plus de jeux avec du multi pas joué que de jeux avec du multi joué.
Il y a des exemples. Il y a le ticket d'entrée pour un multi qui va prendre là, pour que la sauce prenne, il est vraiment difficile. Il y a même des jeux spécifiquement multi qui sont des blagues dans le milieu.
Comme quoi?
Unreal Tournament 3 par exemple, où il y a des serveurs, ils sont tous vides, et quand ils sont pas vides c'est des bots, hein. J'ai cherché des humains, hein, pour jouer la semaine dernière. Je me suis dit tiens, je me rappelais plus du jeu, tiens, des fois je relance un vieux
jeu. Tu l'avais pas désinstallé?
Non, il est toujours sur ma bécane. Je ne sais
pas
pourquoi.
T'as vraiment trop de terrain que t'es donné,
c'est clair. Et là je me dis tiens, j'ai envie de réessayer, mais il y a plus personne. Et c'est dingue
qu'il y a encore des serveurs avec.
Il y en a une cinquantaine. Ouais.
Synthétise ta pensée. Hein.
T'imagines 50 serveurs pour que personne n'y joue?
Parce que les mecs,
on peut en prendre 2-3. Hein.
C'est des serveurs.
On va appeler Epic. Allô, dis donc, Mark Crane, Marc, tu nous files
un
serveur?
C'est des mecs qui ont les serveurs, ça peut être des particules, etc. Ils ont une bécane, ils ont un serveur counter dessus, un serveur. Enfin, ils mettent plusieurs jeux.
Ils sont comme toi, ils ont oublié qu'ils avaient une machine planquée.
Enfin, bon, quand même, messieurs, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les gros jeux, les éditeurs ne se sentent pas obligés de toujours. Alors, que ce soit pertinent ou pas, comme la
Je sais pas justement s'il n'y a pas justement une tendance à ça.
Moi, j'ai envie de dire ça dépend du style de jeu. Tu verras jamais nos amis chez ICO et compagnie se faire chier.
Mais alors déjà c'est Sony, c'est le réseau, c'est encore un autre truc. Ouais. Mais la plupart des éditeurs tiers, moi je suis persuadé qu'il y a peut-être plus au niveau du middle management que dans les grands stratèges des développements de jeux, des gens qui reçoivent des pitchs de jeux toute la journée, de gens qui veulent développer des jeux de studio machin. Ils disent vous avez pas de multi, au revoir. Vous avez pas de multi, au revoir. Vous avez pas de multi, au revoir. Alors que en réalité, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dès que tu te lances dans du multijoueur, que ça soit du massivement multijoueur ou pas, donc en l'occurrence c'est pas le cas pour tout ce qui est FPS, TPS, STR, etc. Si tu n'investis pas un minimum de temps dans ce multi, tu n'auras pas autant de plaisir, et donc ça sert à rien de t'investir dans plein de jeux multi, alors qu'il y a plein de jeux qui ont plein de multi qui sont pas joués.
Il y a un titre, il y a
CAF. J'allais me tourner vers mon ami Julo, mais ce sera pas tout à l'heure, Julo. Ou sinon tu peux rentrer chez
toi. Julo, il faut que tu fasses un comeback en force.
On t'enverra un fax pour te faire un résumé du podcast.
Je voudrais vous faire part d'une réflexion.
Ah, oh là, s'il vous plaît.
Excusez-nous, Julo veut parler.
Instant, on ouvre les oreilles.
Non, alors moi, pour répondre à ta question, clairement, j'ai l'impression que oui, effectivement, ils se forcent à faire des modes multi dans des jeux
qui n'en
auraient pas forcément besoin. Cela dit, des fois, ça peut faire naître des trucs assez sympas. Et là, je pense à la bêta d'Assassin's Creed Brotherhood qu'on est en train de faire. Quelque part, à la base, c'est pas du tout un jeu qui est pensé pour la création d'un mode multi. Et puis finalement, ils ont créé un gameplay, une expérience, etc. Et puis ils se sont dit, comme tout le monde, hein, je pense, ils se sont dit putain,
j'en rêve depuis le plus loin, moi.
Faut qu'on fasse un mode multi, les gars. C'est vrai, tu y as pensé tout de suite.
Ah, mais grave.
Moi, je me suis dit, ça va être le bordel.
Mais non, mais moi, j'y ai pensé. Ça m'a rappelé Splinter Cell. Tu vois,
mais c'est la même équipe. C'est
voilà.
Ubi.
Ces mecs-là, ils me font rêver.
Mais alors voilà, et c'est ça que j'aime bien chez Ubi, en l'occurrence, pour ces jeux-là. Et comme avec Splinter Cell à l'époque, c'est qu'ils font développer vraiment un jeu spécifique par une autre équipe, etc., qui va se creuser la tronche et faire.
Ce qui était le cas pour BioShock 2, hein, mais avec effectivement un succès moindre.
Voilà. Non, mais là c'était plus parce qu'ils n'avaient pas les ressources.
Ligne, il a peut-être pas
Moi
succès,
qui ai fait le test, je peux te dire oui, enfin, c'était pas pourri. Mais
généralement, si un jeu en ligne ne prend pas, c'est pas juste un problème de jeu. Enfin, tu vois, la communauté elle est sans pitié, quoi. Ils essayent, ils voient, ça leur plaît pas.
C'est d'ailleurs pour ça que.
S'il y a mieux ailleurs dans le même genre, de toute manière, voilà.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de MMO qui meurent.
Si je peux en caser une deuxième.
Attention, t'abuses. Attention, tu auras 4 interventions dans ce podcast. Si tu prends ta deuxième,
deuxième joker.
Deuxième.
Il est désespéré. Tu voulais dire donc alors.
Non, ça y est, je me rappelle.
Shenmue Online. Shenmue, le multijoueur.
Attends, Shenmue Online. Bah oui.
Vous me fait perdre le fil aussi, les gars.
Tu parlais des expériences un peu atypiques qui sont développées. Avec Ubisoft.
Ah, si c'est pour dire ça, Julo. Franchement, c'est une catastrophe.
Ça va me revenir dans deux minutes.
Bon, et on va passer à un autre sujet de débat, un autre thème.
Non, on va sur celui-là un peu quand même.
Non, mais t'inquiète, on part pas du multi. Ça au moins, c'est sûr. C'est à qui tu peux réfléchir. On va parler du multi payant, parce qu'effectivement, c'est Fasque qui a souligné ça. C'est une semi-réalité sur console avec le Xbox Live. Le Xbox Live, effectivement, où il faut payer pour jouer en ligne. On a vu aussi avec l'arrivée du PlayStation Plus que là, on ne paye pas pour jouer, mais on paye pour avoir des avantages et que peut-être que la génération suivante, il faudra s'acquitter
de quelque chose.
Est-ce que vous pensez que le multi, un jour, deviendra une feature vraiment payante? Parce qu'il y a des serveurs à payer quand même du côté de l'éditeur, il y a quand même
mais
des
c'est
frais,
déjà
hein.
Le cas. Enfin, je veux dire, les MMO, c'est payant, c'est du multi. Il y a, et en fait, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire passer, c'est la notion de service, en fait. Alors,
et ça, Blizzard, ils ont tout compris là-dessus aussi.
Blizzard, alors, c'est les dieux vivants sur le service.
Mais c'est vrai en même temps. Je fais juste une parenthèse avant que tu continues. C'est que Blizzard, le service, pour eux, c'est des centaines de salariés. Et des centaines de salariés pour le monde entier. Ah, et oui. Les gens ne le savent pas forcément. Mais c'est vraiment des tas de Game Master et tout. Ça coûte vraiment du pognon.
Mais c'est le seul jeu où tu peux avoir un problème, où tu vas poser une question, où on va vraiment te répondre dans l'heure. Quoi. Déjà, tu fais ça chez Sony, il faut être patient. Enfin, il y a moins de joueurs en même temps. Donc, bref.
Toi, tu parlais de quelque chose tout à l'heure quand on prépare un peu le podcast, ouais. Que je trouvais assez pertinent parce qu'on le sait tous, hein, sur PlayStation Network, les temps de chargement, de téléchargement de démos, d'installation, c'est très lent.
Merde.
Alors tu disais et tu soulignais quelque chose, mais, que pourquoi pas.
Mais ça arrive déjà. Regarde, tu veux télécharger.
Alors précisons ce que tu
alors, moi, ce que je disais, c'est qu'en fait, un jour, Sony vont peut-être investir un peu de fric et se dire, mais ces nouveaux serveurs, ces nouvelles lignes pour aller plus vite pour télécharger les trucs, on va les faire payer. Et c'est ce qui existe déjà sur PC quand tu regardes les services comme Hotfile, les trucs de download en fait, avec les services premium, où tu payes pour avoir un accès où tu n'attends pas, où ça va plus vite, etc. Tu l'as chez File Planet, etc. Donc je suis
certain. Tu crois que ça va durer ça ?
Mais ça, mais évidemment. Évidemment.
Parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, tout continue à
non,
augmenter, les bandes passantes augmentent, les prix baissent pour avoir une certaine bande passante. Au bout d'un moment, ça coûtera tellement plus rien que tu pourras plus le vendre.
Les mecs vont se démerder pour nous le vendre, j'en suis persuadé. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en termes de business, il y en a plein qui vont crever et il y en a qui vont être vraiment les centres serveurs avec tout. Après, ça va dépendre de ce qui va se passer, mais quand tu vois qu'Apple est en train d'investir plus de 1 milliard et quelques de dollars pour un centre serveur énormissime pour gérer tous leurs services de cloud qui sont mis, mais tous les trucs qu'ils veulent mettre sur iPhone, etc. Et ils ont racheté un terrain, mais genre 12 mètres carrés pour 1,5 million de dollars pour virer les derniers qui ne voulaient pas se barrer du terrain, tu vois. Donc ils sont vraiment très sérieux pour avoir un truc énorme. Ça va être le nerf de la guerre, en fait. Le cloud et la bande passante, etc., ça va être le nerf de la guerre. Et il y a un moment où il faudra passer à la case banque, parce que alors je sais pas comment ils vont se démerder, mais actuellement, sans rentrer dans les détails parce qu'on est quand même là pour parler de jeux vidéo, mais on a un petit souci avec des services comme YouTube qui gagnent plein de fric avec la pub mais qui bouffent plein de bandes passantes. Mais cette bande passante, ils en payent un morceau, mais par rapport à ce que ça génère comme trafic et comme bordel au niveau de la planète, c'est que dalle. Donc comment ça va se passer? Il y a des ces fournisseurs d'accès internet qui sont en train de se dire on va taxer ce truc là si tu veux que YouTube rame pas chez toi, on te fera payer. Il y a un moment où il va y avoir un switch, j'espère qu'il va se faire dans l'intérêt de tous, mais ça risque d'être assez compliqué. Et pour le jeu vidéo, pour le jeu en ligne, je pense que il va se passer des trucs, et Sony, à mon avis, seront peut-être parmi les premiers à le faire. Parce que pour l'instant, finalement,
tu penses que c'est comme ça qu'ils pourraient reprendre un petit peu d'avance par rapport au retard qu'ils ont à l'heure
là. Il faut qu'ils fassent un truc. Enfin, moi, je sais pas, j'utilise tous les jours, enfin pas tous les jours, mais c'est vraiment le service. Quand tu vois l'expérience sur le PSN et l'expérience sur l'Xbox Live, qui est payant. Tu payes ton truc.
Ah, oui. Derrière,
qui est bien meilleur sur Xbox Live.
Sur l'Xbox Live, tu payes, mais finalement, tu as payé à l'année en plus, donc tu oublies, entre guillemets. Oui. Et puis derrière, tout fonctionne. C'est-à-dire que ça va vite, le système d'installation de jeu, il n'y en a pas. Tu télécharges, tu peux jouer tout de suite.
Ça, c'est pas lié au multijoueur, c'est lié à l'architecture de la machine.
C'est toute l'expérience qui a été pensée en
amont. Elle est meilleure, oui, c'est sûr.
Donc le PSN, là-dessus, ils ont vraiment un boulot hallucinant à faire. Et pourquoi ils le feraient pas payer? Tu vois, le truc, c'est qu'ils étaient gratuits au départ parce qu'ils étaient en retard, etc.
J'ai envie de ressortir la fameuse puissance de la flemme.
Eh oui.
Qu'on sous-estime toujours. Mais quand on a vraiment marre de prendre 30 000 ans pour télécharger une putain de démo, ou un patch ou un bidule, au bout d'un moment, tu fais OK, j'en ai assez.
Sur PS3, quand tu actives la cross-media bar, tu attends que les icônes se load aussi.
J'irai pas jusqu'à payer pour voir mes icônes.
Non, mais là-dessus, ils ont un retard assez hallucinant. Mais pour revenir sur la question, je pense qu'un jour, le multi risque d'être payant. Il l'est déjà sur plein de jeux, comme on vient de le voir, et il l'est finalement de plus en plus par la bande, parce que plein de gens jouent à des free-to-play en se disant oh, mais c'est gratuit, c'est génial, sauf que non, parce que finalement, tiens, j'achèterais bien un chapeau débile pour mon personnage, tiens, c'est payant,
mais c'est $1, c'est le principe du micro-paiement, et voilà.
Alors, au-delà des micro-paiements, sur l'expérience de jeu en ligne, petit tour d'horizon, etc., à main levée, qui pense que ça va devenir payant, de jouer en ligne de manière
moi j'ai pas envie que ça devienne payant.
Là on parle pas de ce qu'on aurait envie, mais de ce qu'on pense.
Oui, moi je pense qu'on va y venir.
À moyen face, que lève la main, Julo, qu'est-ce que t'en penses?
Je pense qu'on va y venir.
Ouais, moi aussi.
Tu veux dire donc une disparition complète de jouer gratuitement?
Non, pas forcément complète, mais sur les services majeurs.
Pour moi dans ma définition, ça existe déjà.
Un meilleur service payant, ça c'est sûr.
On est unanime là-dessus, effectivement, on va tous se faire entuber. On est unanime pour dire que oui, bien sûr.
Et on n'a pas le choix.
Vous avez raté quand même tout à l'heure une possible intervention de Julo, mais je vais posé la question et il m'a dit non c'est déphasé, donc je respecte son choix.
Non, mais en même temps ça nous permettrait de revenir aux jeux vidéo.
Attention, tu m'as séduit là.
Non,
alors
mais... Non, parce que je voulais dire à propos du jeu en ligne, donc le thème de ce podcast, hein, je vous le rappelle.
Alors, excuse-moi, Julo, mais le thème du podcast, c'est le jeu multijoueur, c'est pas le jeu en ligne.
Le jeu multijoueur.
Ah, t'es deg.
Tu m'as bâché. Merde. Je snipe et je me refais sniper derrière. J'ai l'impression de jouer à Assassin's Creed avec le film. Bon, bref.
Il va avoir peur du film.
Ça y est.
Pour la deuxième fois.
Je voulais rebondir finalement sur ma première idée. Et dire que effectivement,
dont tout le monde se souvient.
Et si vous en souvenez pas, vous pouvez revenir en arrière.
C'est vrai.
Il y a pas de problème. C'est moderne. Donc en fait, effectivement, tous ces gens qui se mettent à balancer des modes en ligne, même quand il y a pas besoin, etc. Je disais que finalement, ça peut créer de nouveaux concepts. Et moi, ce qui me saoule un petit peu dans le jeu multijoueur qui devient quasiment entièrement en ligne, maintenant on l'expliquait en début de podcast, c'est que on nous refourgue à longueur de temps les mêmes formules et les mêmes choses. Et un MMORPG, bah, c'est toujours la même chose. Tu vas toujours taper des lapins sur la plage, ensuite passer.
Si tu joues à FF14,
c'est très chiant.
Beaucoup plus chiant.
Bah, écoute,
c'est-à-dire que c'est pas sur une plage.
Après, c'est une question d'univers. Moi, je suis plus attiré par l'univers
c'était
de FF14.
C'était juste pour placer une pauvre vanne pourrie. Pour FF14.
Dans tous les cas,
c'est pas bien de taper les gens.
Ça booste la créativité.
Et ça booste finalement la créativité. Enfin, je veux dire. C'est énervant ce concept de vouloir toujours lancer des modes en ligne, etc. Ouais. Mais en même temps, ça pousse un peu la créativité. Et la créativité, je trouve que les jeux multijoueurs en ligne ont vraiment besoin d'innovation, de choses un peu créatives. Parce que on tourne en rond.
Mais c'est clair que c'est difficile
quelques
de
années,
dire.
Là, quand même, et, d'une force.
Et par exemple, ça, c'est un peu un cheval de bataille qu'on a. Hein. C'est un MMO avec une vraie histoire.
Mais oui, mais alors moi, alors
nous, par exemple, moi je suis pas joueur de MMO et j'aimerais bien voir ça.
J'ai répondu ça à Fask. Je disais, mais à quand un peu de narration Alors toi, tu me dis, ça existe. Moi, j'ai répondu, ah bon. Je sais pas.
Ça existe, et c'est vrai qu'elle est limitée. Elle est limitée par elle a des obstacles techniques au fait que tu peux pas faire une vraie narration dans un MMO. C'est super compliqué.
Tu peux pas pour l'instant. Mais
oui,
peut-être
oui. Moi, je sais que tu
trouvé.
Peux, c'est sûr et certain.
Mais dans
c'est
peut-être que l'histoire
lui
donnera raison.
Ça m'a fait repenser à des vieilles choses qui avaient été tentées il y a très très longtemps. J'en ai parlé quand on préparait le podcast, notamment à Vampire
The Masquerade, le premier en fait, oui.
Où il y avait un mode multi où en fait, en gros, t'avais un maître du jeu et puis t'avais des joueurs et t'avais une espèce de jeu de rôle.
Bah exactement comme sur table. Mais, voilà. Mais sur PC.
Voilà, et ça n'a pas marché du tout. Alors que moi, j'y voyais quelque part une espèce de possibilité, peut-être, de contourner les limitations de l'intelligence artificielle dans ce genre de jeu. Quand tu rencontres des PNJ, mais pourquoi pas finalement se dire, mais voilà, on va mettre que des PJ, on va mettre que des joueurs qui vont jouer des personnages et qui vont interagir avec toi dans un univers en leur donnant un rôle et en leur donnant des indications. Voilà, c'était l'idée que j'avais. Après, derrière, effectivement, moi je suis pas un apôtre de la narration. C'est vrai que c'est un truc qui me fait toujours un peu tiquer. Moi je suis plus intéressé par du gameplay. Par exemple, Heroes of New World, il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'histoire, on raconte rien dans ce jeu.
Si, il y en a une, mais tout le monde s'en fout. Hein.
Oui, voilà, c'est comme Street Fighter, il y a une histoire, mais c'est même pas une histoire, c'est un background. Il y a des personnages où on dit, voilà, c'est machin bidule qui était.
Ils n'ont qu'une histoire.
Il n'y a pas de narration.
C'est juste qu'un tel couche avec bidule, c'est tout comme d'hab.
Voilà.
Même pas.
Mais on t'amène pas d'un point A à un point B dans une histoire, on te raconte pas un truc, mais le jeu est fantastique et on y passe des heures tous les soirs. Donc pour moi, c'est pas indispensable. Alors après, derrière, oui, j'aime bien quand on me raconte une belle histoire, je suis un grand fan de BioShock. Pourquoi ? Bah, pas tellement pour le gameplay qui est pas extraordinaire, et je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est pas non plus le meilleur FPS de tous les temps.
Ah ouais,
non.
Il est bien réglé, il y a quand même plein de choses.
Il est bon, mais c'est pas non plus là-dessus que c'est surtout l'univers, l'ambiance,
bien
la scénarisation du truc, les personnages qui font que on a envie de jouer, quoi.
Mais il y a un truc en narration. Si on prend vraiment la narration dans le MMO, je reviens sur lui encore une fois. Sur les dernières extensions particulièrement, il y a une vraie histoire, chaque quête est scénarisée. Si on prend le temps de lire les putains de trucs et pas juste tiens,
mais là est tout le problème aussi, c'est qu'une histoire, attention, dans un jeu vidéo, t'as pas forcément envie de la lire.
Non, mais alors attention, c'est que eux, ils ont été ça a été les premiers en fait à trouver, enfin pas les premiers mais quasiment à trouver des astuces techniques, parce que le problème de la narration,
tu parles du phasing et tout ça là.
Ouais.
Le phasing.
En fait, le problème de la narration dans le MMO, c'est que si tu vas tuer un mec ou faire voler une maison et que tu finis ta quête et que deux secondes après la maison elle est revenue ou que le mec que t'as tué il est là,
oui, c'est pas très crédible.
Voilà, ça flingue le truc. Donc ils ont intégré quelque chose qui est super malin. C'est donc le phasing. Et le phasing, en fait, c'est quand tu fais une quête X où tu vas, par exemple, on va dire, tu vas brûler un château, et ben ce château il va être toujours brûlé quand tu vas avancer, quand tu vas revenir. Par contre, la personne qui a pas fait la quête, elle te voit pas. En fait, techniquement elle est même pas dans le même univers que toi. C'est un peu un univers parallèle où le château c'est a bizarre. Pas encore été fini quoi.
Et comment tu peux faire pour interagir avec les
et
autres
pour,
joueurs
à ce moment précis, dans cette zone précise justement, c'est la deuxième problématique, c'est que les gens peuvent pas se voir. Il faudrait qu'ils sortent de cette zone où on voit
donc,
pas le château pour qu'ils se
retournent. T'es entouré que de personnes qui ont fait la même action que toi, c'est-à-dire
qui sont au même niveau.
Qui sont au même niveau. Voilà. Par contre, si le mec en fait c'est assez perturbant au départ, mais ça marche plutôt bien, c'est que au moment où le mec va faire cramer le château et qui va donc avoir fait la quête, en fait les mecs qui l'ont pas fait vont disparaître, donc mais ils vont fader en fait, et les mecs qui sont au même niveau de la quête vont apparaître. Et donc d'un coup il va se retrouver au même niveau que les mecs que ces mecs là. Et cette technique là c'est un truc qui est plutôt malin, c'est un truc qui va être utilisé
ça, c'est, dans haut,
c'est dans haut c'est dans, ça, a été, ça a paru dans l'histoire
ouais, ils
fait.
Sont trop forts honnêtement
c'est pas con mais ça n'implique pas le joueur si, alors, en tant qu'individu et c'est ça qui est dommage.
Écoute ce que te dit Julio.
Oui c'est que ça parce que là le doigt là il est quand même violent.
Non,
non,
non
mais il a raison, c'est un contournement d'un problème.
Attends laisse-moi finir si j'ai raison. Oh le décor c'est cool. Tu vois c'était
aidez-moi s'il vous plaît quand même parce que
sauvez-moi.
Non non mais il faut le mettre là-dessus. Voilà merci formidable.
C'est bon.
C'est vraiment
voilà,
ça n'applique pas à ces joueurs.
Tu peux revenir parce que ça devrait
oui,
tenir
puis
normalement.
Après, tu pourras faire une carrière dans la meuf qui tourne la lettre.
Au moins quelques minutes.
Enchaînons.
Attention, parce que là, on va.
Oh, nous avons perdu tout le monde.
Oui, c'est ça.
Et moi aussi, d'ailleurs, je suis perdu.
Donc ça n'applique pas.
Ça n'applique pas le joueur en tant qu'individu. C'est-à-dire que si tu fais cramer cette maison, il faut qu'à un moment. Ça perturbe l'univers dans lequel tu te trouves et dans lequel se trouve tout le monde, et que les gens
soient témoins du fait qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc,
soit témoins ou soit l'apprennent, et que tu deviennes en fait partie intégrante de l'histoire comme tu l'es dans un jeu offline.
Tu l'es, c'est toi qui viens de le faire,
mais
non,
oui,
mais pas
mais
pour
non,
les autres.
Tout le monde le fait, personne.
Mais quand tu joues à un jeu solo, c'est pareil.
Mais non, parce que là, t'es complètement. T'es dupe dans un jeu solo. Ben si, parce que c'est, enfin, je veux dire, l'expérience est faite pour te faire participer à l'histoire. Ce que tu fais a un impact sur le développement de
mais
l'histoire.
T'es le centre
etc.
de l'histoire dans
même
un jeu
si
solo.
C'est prévu avant, que c'est scripté, etc. Mm. C'est toi qui agis sur l'histoire. Et dans ce cadre-là, imagine-toi avec d'autres joueurs autour de toi, que ce soit une infinité ou quelques-uns, etc. Et ben, il faut que toi, tu aies perturbé cet univers pour toi, mais aussi pour les autres. Sinon, c'est pas intéressant en termes de narration.
Cave, j'ai une grande nouvelle pour toi. Tu sais que ton ami, ton meilleur ami, David Cage, est en train de travailler sur la narration dans le MMO.
David.
Voilà, et peut-être qu'il va essayer de nouvelles voies, avec succès ou pas. On verra.
Dans le problème, mais à mon avis, c'est
dans la narration des petits joueurs.
Le problème pour moi, justement, c'est que pour l'instant, on a fait soit de la narration, soit du gameplay. Et que pour l'instant, les trucs qui sont passés, c'est juste.
En fait, le vrai
chiant,
problème,
quoi.
À mon avis, le vrai problème de ça, c'est que. Pour tout le reste, on a mis en place des systèmes. Le jeu vidéo, c'est un gros tas de systèmes. C'est des systèmes de gameplay, des systèmes 3D, des systèmes plein de trucs. Et on n'a pas trouvé encore comment faire un système qui crée des histoires.
Et oui,
si on avait trouvé un système qui crée des histoires crédibles, qu'on a envie de suivre
dynamiquement
etc. Ouais. Donc avec des petites briques fondamentales d'histoire. C'est peut-être, par exemple, je sais pas moi, dans un MMO...
Moi, je mange, taper, action.
Non.
Non, mais non mais quand je dis action, il se passe des trucs.
Non, mais par exemple, imaginons un MMO. Je vais prendre quelques exemples comme ça et survoler un petit peu ce sujet-là parce que voilà, si je rentre dedans,
c'est
là, j'en ai pour des heures.
Procédural, comme le dit Fasque.
Voilà, exactement. Il y a des moyens comme ça avec des éléments fondamentaux qui vont se parier les uns aux autres. Par exemple, imagine ton MMO standard avec tes elfes, tes nains, tes trolls, tes machins, le truc fantasy de base, ok. Où t'as comme brique narrative fondamentale que si tu fais un personnage elfe, par exemple, tu vas pas pouvoir faire les quêtes nains. Ça, c'est une brique fondamentale de narration. Par-dessus cette brique-là, se rajoutent d'autres briques. Par exemple, si toi, t'es telle classe, eh ben, tu vas avoir accès à tel type de quête, etc. Et tu mélanges toutes ces briques-là au fur et à mesure, et elles se complexifient les unes les autres, parce que chaque joueur qui rentre dans ton groupe de jeu apporte ses propres briques. Si, par exemple, au départ, toi, t'es un elfe et que t'as une brique qui dit « je ne peux pas faire les quêtes nains », mais tu rencontres un nain. Qui lui a la brique nain et qui dit
j'espère
pas
que
faire
vous avez une feuille de papier et que vous faites des
schémas.
À ce moment-là,
jette ton dé.
Si tu deviens l'ami de ce nain, tu bénéficies peut-être de sa brique. Mais c'est peut-être que certaines de ses briques ne le concernent que lui parce que c'est son histoire perso,
il sait bien
c'est
pas
ses parents, c'est ses machins. Peu importe. Enfin, tu vois, il y a probablement moyen de trouver un système. Je dis pas que c'est très facile, mais il y a moyen de travailler dessus. Mmh. Et c'est sûr que
mais
celui qui arrivera à faire cette quadrature du cercle aura trouvé quelque
tu sais,
chose d'intéressant.
Au moment où tu. C'est juste un tout petit truc à la con. Au moment où tu crées ton perso dans un jeu en ligne. Mmh. Et ben, ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'on crée son background, en fait.
Alors, tu vas adorer Guild Wars 2, par exemple, qui travaille aussi sur certains éléments très intéressants par rapport à ça.
C'est que tu décides que ce mec a, je sais pas, perdu son père dans un incendie créé par tel autre gars, etc. Et qu'en fait, au moment où tu crées pas juste sa coiffure...
Tu peux choisir des briques narratives.
Voilà, tu choisis direct, en fait, une histoire que tu décides d'intégrer. C'est un peu une partie roleplay, en gros. Tu décides, voilà, ça, c'est mon histoire. Et ça va motiver ensuite certaines choses dans ce que tu vas vouloir faire. C'est un peu ça dans Guild Wars 2. Ouvert, etc. Donc il y a plein de pistes intéressantes. Moi j'ai l'impression vraiment qu'il n'y a rien qui a été inventé.
Ouais, mais c'est, moi ce que je vois pas, c'est l'interaction avec le côté gameplay derrière. C'est-à-dire que pour un super, mais je m'en fous, autant livrer un bon bouquin.
Non, mais c'est pas antinomique avec.
Justement, pour l'instant, le problème c'est qu'il faut que les deux aillent ensemble si tu veux. Faut qu'il y ait un impact.
Bien sûr.
Faut que le mec, par exemple, quand il y a du feu à proximité, puisse pas viser, tu vois, une connerie parce qu'il est traumatisé.
Très bonne idée. C'est une brique possible. Et après, tu peux imaginer un système. Là, on est en plein gameplay. Si le mec prend une brique négative, quand il y a du feu, je peux pas viser. À ce moment-là, il gagne des points pour avoir des nouvelles briques narratives positives. Et au lieu de se faire chier avec un système où c'est des points d'expérience et des niveaux, et c'est après ça que tu cours en réalité, pas après une histoire.
Ça, c'est clair.
Et bah, tu articules tout le système du jeu autour de je cours après une histoire, après des nouvelles briques narratives, des nouvelles histoires, des nouvelles manières de construire
Lego
mon personnage. Très 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 bon titre. Un Lego MMO.
Ouais, Lego MMO.
Mais
bon.
Non, mais il y a probablement moyen d'en faire quelque chose.
Fasque, tu voulais rebondir tout à l'heure sur les propos de Julo.
Ouais, je trouve ça un peu paradoxal en fait, parce que j'ai l'impression que plus on cherche à avoir quelque chose de narratif où on peut vraiment incarner un personnage et où on peut construire son background, etc., et plus en fait on se rapproche du jeu vidéo comme étant juste une boîte à outils en fait. Donc en gros, on donne des règles du jeu, on donne des accessoires, on donne voilà, et puis il y a plus aucune préconception de la narration en fait. Donc c'est plus les gars qui font les jeux vidéo qui racontent une histoire. C'est on dit voilà, on te donne des outils,
ouais.
On se retrouve dans un espèce d'énorme bac à sable, c'est-à-dire ça serait un GTA.
Mais c'est un peu ça le MMO aujourd'hui quand même.
Dire, voilà, on donne une ville, on donne des voitures qui roulent, on donne des gens qui marchent avec lesquels tu peux interagir, qui ont des fonctions, etc.
Mais c'est le gameplay émergent.
Et c'est toi
qui
fais l'histoire en gros.
Ouais.
Oui, c'est ça, mais c'est du gameplay émergent à fond. Je veux
mais
dire,
c'est pas ça le MMO aujourd'hui.
Bah pas vraiment, tout, non, puisque chaque quête est écrite par les développeurs.
Oui.
C'est des scripteurs derrière qui disent bah voilà, va devoir faire ça, ramasser ton truc.
C'est des petites quêtes, quoi.
Oui, c'est, en général, ça pisse pas loin. Dans WoW, t'as certaines très longues lignes de quêtes qui sont bien élaborées, etc. Mais effectivement, elles sont écrites par des développeurs. C'est pas les joueurs qui vont créer les histoires. Après, sur des serveurs roleplay, j'imagine que t'as des joueurs qui se font des trips de ouf malade en se disant bah on va aller.
C'est pas la majorité dans WoW.
Voilà, donc ils se racontent leurs propres histoires.
On se rapproche finalement d'un Eveline en fait, où c'est finalement.
Exactement.
En gros, on donne aux joueurs un environnement avec des outils et on leur dit voilà, faites l'histoire.
Un Minecraft.
Et en gros, c'est les joueurs qui font l'histoire.
Mais
dans
ça marche dans Eveline.
Eveline, c'est le jeu spatial.
C'est le jeu dans l'espace. Oui. Hein, exactement.
Et alors, en quoi ils écrivent l'histoire?
C'est-à-dire qu'il y a très peu d'éléments qui sont gérés par les serveurs et par les développeurs.
Il n'y a pas de scénarisation en fait.
En fait, c'est les guildes qui se font des guerres, donc ils ont inventé
leur propre.
Quand t'attaques quelqu'un pour la première fois, tu lui dis mec, tu fais partie de mon histoire, je vais te défoncer la gueule.
C'est un peu ça. Ou alors c'est genre ça, c'est à moi, c'est ça, c'est mes. T'es en train de miner des astéroïdes, t'as des mecs qui arrivent à 15, ils font genre toi tu gicles, c'est à nous tout ça. Ah bon, d'accord, mais t'es pas d'accord, alors toi tu reviens avec ta guilde et mais puis c'est la guerre.
Ce que moi je trouvais paradoxal, c'est qu'on est justement dans une réflexion où on se dit on va aller vers de plus en plus de narration et raconter des histoires, comme disait Julo, où pour lui c'est important d'avoir une histoire et d'avoir un fil conducteur, et où en fait on se rend compte que si on veut vraiment avoir une chouette histoire avec un truc qui se construit, il
faut pas qu'elle soit écrite par des auteurs.
Voilà, il faut que ça se fasse, ça soit généré automatiquement par le joueur. Quoi.
Ça doit être pour ça aussi que je suis hermétique au discours de certains David, c'est que.
On est deux, mais c'est
en fait, moi dans le multijoueur, si j'ai envie d'une histoire, en fait, bah, j'ai des super RPG solo quelque part. Dans le multijoueur, ce que je recherche, c'est vraiment des gameplays. Là, c'est vraiment
le problème,
une
c'est qu'il y aura toujours un coin de ta tête qui te dira cette histoire, elle a déjà été écrite, il y a un début, un milieu et une fin. Alors que dans le MMO, imagine un système où vraiment tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, tu ne sais pas jusqu'où ça peut t'emmener.
Ah oui, mais je parlais pas de MMO là. Je revenais sur le truc du multijoueur quand on joue en multi contre avec ou contre d'autres.
D'accord. Mais tu joues au MMO aussi. T'es pas seulement un joueur de multi
non,
au
non,
global.
Non, complètement. Mais c'est vrai que j'en avais fait mon deuil. Mais moi, je repense à des gameplays qui sont complètement différents. Et il y a le truc de sniper qui me fait délirer, par exemple. Candy, c'est dommage parce qu'en fait il avait eu l'idée il y a 10 ans à peu près.
Ah, Sniper Logic.
Sniper Logic, et ben il y a un jeu de sniper qui va sortir. Et là, typiquement, c'est le genre de gameplay où je me dis, mais putain, mais pourquoi personne l'a fait avant, quoi.
C'est quoi le truc?
C'est en fait, t'es un mec, t'as un sniper et tu dois flinguer un mec dans une balle de l'ambassadeur. Et en fait, les targets, tu sais pas qui c'est, mais elles sont jouées par des joueurs aussi. Et en fait, les joueurs ont la même gueule que les PNJ et eux, leur but, c'est de pas se faire repérer. Donc en fait, il faut qu'ils fassent super gaffe à pas faire un truc.
C'était pas le principe de The Cruise, enfin le truc la croisière qui est.
Si la croisière, voilà. Mais alors eux, voilà, c'était un petit peu raté.
Oui, un peu.
Et pour être gentil. Et là, c'est pareil. Les mecs, ils sont en train de bosser. Il y a une bêta. Et je crois que c'est j'ai un pote journaliste qui a joué et qui m'a dit putain, mais le potentiel de ce truc, c'est juste n'importe quoi. Parce que là, du coup, t'as des émotions de ouf.
Et là, tac, je clôt ce petit aspect débat pour lancer un autre débat, partir un petit peu. Là, on a beaucoup parlé de narration, de multijoueur et de MMO finalement. Mais revenons vraiment sur le multi avec une question qui nous concerne, là, qui va faire fondamentalement débat, une sorte de schisme, la rédaction divisée par deux. Interconnexion du multi entre PC et console, c'est une sorte de fantasme. Aujourd'hui, ça existe très peu, voire pas du tout, ou très mal.
Il y a eu de très maigres tentatives.
Le MMO, c'est du côté du PC, sur console, ça n'existe pas, alors qu'on pourrait se dire, on pourrait avoir les deux. Oui, c'est ça, il y a Final Fantasy XIV, mais 11. On ne peut pas jouer. 11.
Oui, 11, 14, ça sera bientôt.
14,
mais...
bientôt.
14,
quand on joue à Halo, il n'y a que le premier qui est sorti sur PC, mais enfin, on ne peut pas bien jouer.
Et les derniers trucs, c'était Shadowrun.
Pourquoi les joueurs console et les joueurs PC ne peuvent pas s'affronter?
Alors, j'ai traité une news sur le sujet il y a pas très longtemps, où en fait on a appris que Microsoft avait tenté l'expérience et qu'ils avaient abandonné le projet pour officiellement des raisons de...
Non, mais ça a existé, ils n'ont pas que tenté l'expérience, c'est sorti
dans Shadowrun par exemple.
Shadowrun, oui, exact. Et que ça marchait pas du tout parce que les joueurs console n'étaient pas égaux face aux joueurs PC. Alors je suis pas en train
de
dire que
c'est que c'est un jeu de merde.
Que nous avons la plus grosse.
Et que les joueurs PC, ouais, ils y ont pas joué.
Excuse-moi. Dans l'absolu, le problème il est là.
Les joueurs console non plus.
Et que on sait très bien que les FPS sur console sont pas du tout les mêmes que les FPS sur PC. On prend Team Fortress 2 par exemple, c'est pas tout à fait le même jeu sur console et sur PC parce que la prise en main est pas la même. Il y a une espèce. Alors on prend toujours le quand on parle de ça, on a toujours l'impression que les joueurs PC regardent les joueurs console. Le haut, c'est parce que le périphérique est pas le même, l'interface est pas la même. On joue avec un pad d'un côté, on joue avec une souris et un clavier de l'autre.
Caf n'a pas l'air d'être d'accord.
Non, mais justement, ça va.
On joue au PlayStation Move aussi.
Non, mais ça va exactement. C'est exactement ce que je voulais dire, Julo. Parce qu'en fait, le problème il vient de là. C'est pas le PC, console, etc. C'est le problème de périphérique. C'est pas le problème de console.
Oui,
déjà,
dit.
Un truc rigolo, c'est que déjà, le même joueur sur PC et Mac. Les joueurs sur PC, quand un jeu arrive sur Mac, et là par contre il va y avoir interaction, généralement ils se disent génial, de la chair fraîche, des mecs avec des souris à un bouton qui savent pas jouer, et fondamentalement ils ont pas complètement tort.
Ouais, sauf qu'à Starcraft ça change rien.
Ça change rien. Puis moi je me suis fait battre par des mecs qui jouent au trackpad, alors maintenant je dis plus rien.
On connaît même des gens qui jouent à Street Fighter 4 au clavier.
Exact,
hein, et qui enchaînent grave.
Et grave. Et franchement,
c'est la. Non, d'ailleurs il mérite pas qu'il y ait d'être cité.
Ouais. Moi j'ai une théorie, hein. Il a des macros sur son clavier, mais apparemment
c'est
pas
clair.
Vrai.
Hein.
Et
non, je l'ai vu,
Prose, si tu m'entends, salut.
Coucou Prose.
Donc très honnêtement, le truc qui est le nœud du problème quand tu fais un mix de plateformes comme ça, c'est les périphériques. Et maintenant on va le voir dans Mag avec les mecs qui sont mis à jouer au PlayStation Move. Il y a des vidéos de tutoriels déjà sur YouTube pour t'expliquer comment calibrer ton PlayStation Move aux petits oignons avec Mag. Et les mecs, ils défoncent les pauvres mecs qui jouent au pad, mais t'imagines même pas quoi. Et ben oui, mais alors du coup, c'est rigolo, mais c'est en fait, on prouve que là, on est sur la même plateforme, mais on a changé le périphérique, et d'un coup, il y a un avantage hallucinant qui se pose. Alors, évidemment, quand interconnecte un jeu, par exemple, qui tourne sur le PSN ou sur l'Xbox Live, et que tu veux le faire tourner avec un jeu qui tourne sur Steam, sur PC, là, t'as des problèmes de réseau, de synchronisation, etc.
Ouais, c'est une infrastructure
différente. C'est vraiment relou, quoi. Donc, faut arriver à faire en sorte que les trucs se parlent. Mais la vraie problématique, c'est aussi le périphérique, quoi.
Et vous pensez donc que dans les années à venir, on va avoir une convergence comme
mais
ça
moi, je vois pas l'intérêt.
Des deux publics? Ah bon? Quoi? Ça agrandit ton terrain de jeu quand même.
Ça augmente le panel de joueurs, quoi. Enfin,
ok, mais est-ce qu'on a besoin d'augmenter le panel de joueurs? Il y a beaucoup de joueurs console, il y a beaucoup de joueurs PC. J'ai pas besoin de jouer contre des millions de personnes, tu vois.
En plus, vous parlez des joueurs console comme s'ils jouent ensemble, mais sur PS3, tu joues pas avec les gens qui ont une Xbox.
Bien sûr. Non, mais c'est vrai.
Ça serait plus qu'il faudrait.
Mais déjà, on a le problème avec un Street Fighter, tu vois. Déjà, qui règle le problème d'un Street 4 qui peut pas jouer entre PS3 et Xbox.
Non, mais la console unique, les gars.
Voilà. Faut qu'il y en ait. Vous crevez tous, il y en a une qui reste et après on discute. Mais
C'est on live, paraît-il.
Voilà.
Ah oui, dont l'abonnement en plus a été supprimé maintenant.
Par contre, ça marche toujours pas. Moi, il veut pas.
Ah ouais?
Non, il m'a dit toi, ton temps de latence il pue, dégage. Alors que j'ai une super connexion.
Les
serveurs,
ils sont quand même.
Non, mais les Anglais, j'étais super jaloux parce que des Anglais ont réussi à faire le test. Et je fais putain, on est pas loin pourtant.
Tu parles mal anglais, toi, t'es un français.
Non, le truc, quand tu le lances, il a fait genre non, tu pues ton ping, dégage. Mais par contre, oui, effectivement, ça, on règle tous les problèmes.
Ah bah oui.
Tu pues du ping, exactement.
Tu pues du ping.
Voilà, c'est dans cette grande phrase hein, que ça,
c'était un voilà,
petit débat.
Je
voudrais préciser l'heure d'enregistrement et le jour quand même.
Ah ouais,
parce que
ouais,
c'est
là,
chaud,
c'est...
Il reste des bières.
mais voilà, c'est ça, les gens visuellement peuvent découvrir aussi certaines choses. Bon, parlons aussi de l'avènement du multijoueur par internet, sur une composante quand même essentielle. Alors on a parlé tout à l'heure de la différence entre le multijoueur local et le multijoueur en réseau, mais c'est vrai que à terme, si le local commence à disparaître, est-ce que, alors là ça fait un peu vieux con, mais est-ce qu'on va pas avoir une petite nostalgie de ces moments où on se retrouve tous ensemble? Là on l'a vu très dernièrement avec sur console, hein, Party Game ou E-Party. C'est impensable de jouer à ce genre de jeu en réseau. Ça n'aurait strictement aucun intérêt.
Ouais, ça aucun
alors,
sens.
Et il y a beaucoup de jeux comme ça. À Mario Kart, je m'en rappelle, hein, on y a joué ensemble.
Oh oui, tous. Non mais attends, il n'y a pas la voix, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Y a rien pour partager
chier.
L'expérience.
On s'est fait chier.
Voilà,
s'il y avait ne serait-ce que la voix, ça aurait été pas
Mario
mal.
Kart sur Xbox 360, déjà, tu vois, tu pourrais commencer à vanner les mecs, ça serait pas le même jeu.
Oui, mais c'est quand même pas pareil non plus. L'expérience physique, le fait de pouvoir se lever, de se montrer.
Déjà, je pourrais pas pousser un rond, des trucs comme ça.
Ouais, c'est chiant.
Vous vous rappelez ce qu'on a fait quand même, on s'est envoyé des SMS pour communiquer.
Mais oui, c'était juste nul. T'avais,
pendant la course, c'était je t'ai bien doublé. Et puis là,
c'était nul, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y joue plus.
On y a joué une fois quand même.
Mais regarde Street Fighter 4. C'est typiquement le genre de jeu où t'es bien à côté du canapé du mec et tu le vannes grave ta race, surtout quand tu t'appelles Kaf.
Il y a que comme ça que je gagne, en fait.
Et merci.
À la gueule.
faut que je alors que son moyen à l'adversaire.
Mine de rien, même le jeu en ligne reste vachement intéressant. Alors que d'ailleurs, moi, enfin, j'ai pas non plus joué comme un ouf en ligne à Super Street, mais les gens parlent pas trop. Hein.
Alors moi, c'est génial. J'ai une expérience. Bon, alors les gens vont pas me croire parce que je gagne pas super souvent, mais en fait, donc je bats un mec 3 fois de suite et après, t'as le pop-up de message qui arrive. Le mec m'a insulté pendant toute la soirée.
Ah ouais.
Ouais, tu gagnes toujours avec le même mouvement, machin. Bah oui, t'es une merde. Alors moi, j'aurais. J'y répondais, je l'insultais aussi.
Joue mieux, j'utiliserai un deuxième mouvement.
Exactement. Et t'as ce truc-là. Donc, chip, même quand les mecs n'ont pas leur micro, parce que si le mec te saoule au micro, tu peux le mute, etc. Ouais. Tu peux le mute. Mais les mecs, en fait, s'envoient des messages derrière. Par contre, j'ai fait aussi des combats où on finissait à chaque fois à un pixel du mec. Et comme on jouait super tard, on se retrouvait toujours tous les deux avec le matchmaking, parce qu'en fait, dans notre range, il y avait nous et qu'on jouait tous les deux en même temps. Et ben, on s'envoyait des messages, genre, putain, bien joué, putain, ce coup-là, bien placé. Etc. En utilisant le système du truc de la Xbox.
Je suis en train d'imaginer un truc.
Ah, ça y est. Mon Dieu. Fais attention, t'es sûr que tu veux cramer ta dernière intervention là-dessus?
C'est celui qui commente les matchs de Street Fighter.
Ken Bogart.
Oui.
T'imagines, tu joues contre lui, c'est trop relou. Tu le mutes direct. Bon, quoi, c'est génial. Hein.
C'est Alex du Québec,
mais quand c'est le mec qui joue contre toi,
oh putain,
qui est en train de commenter, comment il éclate la gueule.
Ne confondez pas Alex et Ken quand même, hein, c'est dur. Sinon.
Oui, non, surtout pas pour le pauvre Ken.
Pauvre Ken. Mais non, très honnêtement, tu peux avoir les deux. Tu peux vraiment avoir un jeu qui reste fantastique quand tu te. Moi, je fais des street clubs, entre guillemets, donc on se retrouve à 10, 15, 20, et on joue tous ensemble avec des postes, qu'on se fait chier à monter, etc. Et puis, par jour en ligne.
Mais en tout cas, on espère vraiment que les éditeurs, les développeurs ne vont pas oublier en disant
si
c'est pratique, vous avez le net, maintenant il y en a partout, vous avez fibre optique,
non,
etc.
Mais déjà,
pas
Nintendo sort Wii Party. Pour moi, c'est un témoignage déjà. C'est quand même l'acteur numéro 1 du marché en termes de vente de consoles, de vente de jeux, etc. Donc, tu peux pas l'ignorer déjà, pour rien que pour ça. Et s'ils sortent Wii Party, et ça va cartonner, c'est quasiment certain.
C'est sûr.
Ça me ferait marrer là, tu vois que le truc se plante complètement et que tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel.
Wii Music s'est planté.
Oui, c'est vrai. Mais bon,
on savait qu'il allait
c'était pas
personne n'aurait mis sa main
partie,
coupée,
ça déchire.
Mais même s'il peut y avoir effectivement une tendance à oublier un peu les jeux locaux, il y a quelqu'un qui va revenir un jour avec un truc vachement bien, ça va cartonner et pouf, tout le monde va en refaire que des jeux locaux.
T'as toujours des effets de mode, tu vois, pour les jeux de bagnole, c'est pareil. En fait, t'as des trucs comme ça qui vont et qui viennent. Et pour les jeux.
Cette génération de consoles, heureusement qu'il y a la Wii. On tape tout le temps sur la Wii et a raison pour plein de trucs. Mais là, c'est vrai que sans la Wii, on jouerait pas beaucoup en multi.
La mienne, je l'allume jamais, mais je joue toujours avec plein d'humains, Street ou un genre de truc. Tu vois, après, c'est vraiment une question de goût.
Plein d'humains.
Plein d'humains qui me battent. Et
dis donc, chérie, et si on invitait des humains ce soir?
J'invite très bien des humains à manger.
Bah, justement, allez, on a commencé à l'aborder un petit peu, de parler un petit peu de nos expériences de jeu en multijoueur. Ça va être la dernière partie de ce podcast. Quels sont pour vous les jeux multi qui vous ont vraiment marqué? Quels sont ceux qui ont su développer un gameplay suffisamment original pour être innovant et pour vous laisser un souvenir impérissable. On va commencer par toi, Fasque. Allez, tu ouvres le bal.
Je vais en citer deux et je vais pas être super original. Il y a forcément Heroes of New World, c'est toute la vague des MOBA, les Dota, etc. Parce que oui, on y passe beaucoup de temps. Il y a un côté très compétitif, il y a un côté grosse montée d'adrénaline. et gratification aussi quand on gagne, et ça c'est super important dans le multi parce qu'on se compare finalement à d'autres joueurs, et quand on peut les battre et leur exploser la gueule, surtout celle de CAF,
on
c'est toujours
pas
un plaisir. Sinon il y a eu Team Fortress 2, beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai qu'on y a quand même beaucoup joué pendant très très longtemps, et que c'était pour moi une des toutes grosses réussites du multi sur PC.
Qu'est-ce qui en faisait sa force? Pour ceux qui connaissent pas bien
à l'époque,
Team Fortress,
parce que là maintenant ils ont un peu changé le jeu et je pense qu'ils sont un peu en train de le tuer en fait. Mais à l'époque, ce qui faisait la force du jeu, c'est que déjà il y avait une grande variété de classes qui permettait d'avoir des rôles différents dans le jeu. Et puis le fait que c'était un jeu vraiment hautement convivial, drôle, avec une patte graphique qui était vraiment loin du côté réaliste et sérieux d'un Counter-Strike par exemple, où vraiment c'est c'est un côté déjà plus aguicheur, je trouve.
C'est tout. Pour moi, c'est un mélange de bon gameplay, bon design.
Exactement.
En fait, tout est réussi dans ce titre à la base.
C'était
maintenant,
fun,
ce qu'on
quoi,
critique,
simplement.
En fait, c'est juste parce qu'en fait,
le crafting,
c'est devenu. Ils sont en train d'intégrer des trucs de micro-paiement, etc. Et que bon, ça agace parce qu'il n'y en avait pas avant. Mais enfin, quelque part, c'est dur effectivement de leur taper dessus parce que le jeu, il est sorti une fois, donc les gens l'ont acheté une fois, souvent en promo d'ailleurs sur Steam. Et ils le mettent à jour en rajoutant des classes, des armes, etc.
Je sais pas, comme si c'était pas le cas sur beaucoup de jeux multijoueurs en plus.
Non, mais là c'est vraiment, enfin, il y a un suivi hallucinant quoi.
Ouais.
Donc bon, qu'ils sont en train d'essayer de trouver des moyens pour continuer à développer le jeu en gagnant encore de l'argent sans le revendre une autre fois. Bon, fair enough quoi. C'est,
bah, c'est un peu l'idée.
Bah, oui.
Non, mais je leur tapais pas dessus. Je disais juste qu'effectivement, moi j'y joue moins depuis quelques mois parce que le jeu a un peu évolué. Et puis ils ont introduit des nouveaux types de gameplay avec des nouveaux objets, etc. Et où du coup,
moi je m'ennuie en fait. C'est tout bêtement, m'ennuie. En fait, mes Battlefield Bad Company 2 et les environnements, la destruction des environnements font que j'ai du mal à jouer à tous les autres FPS maintenant. Si je peux pas péter un mec qui est planqué derrière un mur à la roquette, ça m'emmerde.
Fask, c'était deux titres ou il y en a d'autres?
Non, pour moi, c'est vraiment les deux auxquels je joue.
Les deux majeurs.
En termes de multi, ouais, vraiment.
D'accord. Julo, à toi de nous parler de tes expériences fortes en multi.
Je vais pas développer parce que j'ai envie d'en citer plus. Ah. Voilà. Donc, je vais commencer par Mario Kart et Bomberman. Donc, ça, c'est le multi dans un canapé avec des potes, etc. Et les sensations énormes que tu peux en retirer de jouer avec des potes, de leur faire des coups de pute. Voilà. C'est irremplaçable dans mon cœur, même avec toutes les nouvelles versions qu'il peut y avoir. Et j'ajouterais même un jeu qui m'est très cher aussi. Beaucoup moins connu, Chouchou Rocket. Rocket, auquel il ne fallait pas jouer en ligne à cause du lag sur Dreamcast à l'époque avec un 56K, 36K même, je crois que chez nous.
Ouais, c'est un 33.6.
33.6, pardon. Mais par contre, y jouer avec des potes sur un canap, Chouchou Rocket, je vous le recommande, c'est génial. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le sortent pas sur l'Xbox Live.
Il n'est pas ressorti, mais si, j'ai vu un truc.
Non, ils le sortent sur iPad.
Ouais.
Et ça, c'est très bien,
mais j'ai
pas
voilà,
sur iPad. Parce que sur iPhone, ça ne va pas être possible, vu la taille de l'écran. Bref, j'ai dit que je ne développais pas. Ensuite, Phantasy Star Online, parce que c'est ma première expérience de jeu
tendance MMO,
tendance aventure quoi, avec des potes, etc. On communiquait avec un clavier et tout, et je trouvais ça incroyable et magique parce que j'ai pas non plus beaucoup d'expérience sur PC. Donc Phantasy Star Online, extraordinaire.
T'as joué à Daok toi aussi, à Dark Age of Kingdoms?
Ouais, alors là j'ai pas du tout envie de le citer celui-là.
D'accord.
Là vraiment.
Tu t'es fait chier.
Tu lui fais une fleur là. Okay. Non, c'était sympa, mais bon. Sur PC, j'ai joué à
Planetside,
et ça c'était extraordinaire. Et là, je sais pas vers quel podcast vous renvoyez dans mes histoires.
Plusieurs fois.
Conducteur de bus.
Ouais, il fallait choisir ses compétences, et moi j'ai choisi conducteur de bus. En gros, c'est-à-dire le mec qui conduit le vaisseau pour aller
déposer les
troupes. Et je trouvais ça génial parce que je me sentais utile, tu vois. Ouais. Je trouvais ça génial, vraiment.
Il y en a qui se sentaient utiles avec des fusils.
T'as des gens et tout qui brainstorm pendant des lustres pour trouver des formules de gameplay multi.
Mais oui, parce que moi, si je vais sur champ de bataille, je me fais buter par tout le monde. Je ne suis pas utile, je peux pas faire gagner mon camp. Alors que j'étais super doué pour piloter ces putains de vaisseaux et je larguais les mecs au millimètre. Et
c'est bien qu'on en parle, c'est bien que t'en parles, parce que moi quand je parle des vannes sur Julo conducteur de bus et tout, faut que les gens puissent comprendre, tu vois.
Exactement. Donc je suis conducteur de bus et il faut le savoir, si je suis conducteur de bus dans le générique du podcast en vidéo.
Oui, c'est à cause
ça
de
vient
ça.
De là, voilà.
Ça vient de là.
Du coup j'ai.
Merci Monsieur Jojo.
Qu'est-ce que je voulais citer? Ah oui, un autre truc sur PC, la démo de Castle Wolfenstein.
Ah ben ouais.
Voilà, juste la démo avec ce bunker allemand. Etc. Bon,
c'était
ça,
fantastique,
c'est extraordinaire,
fantastique.
Extraordinaire parce que là j'étais docteur.
Le truc c'est qu'on
voilà,
jouait en
réseau. Je
faisais
que docteur parce que moi je voulais réanimer les mecs qui tombaient sur le front. Quoi.
C'est,
voilà.
Ce n'est pas un mythe, Julo est un bisounours.
Non mais je me trouvais utile encore une fois et je le faisais bien. Donc,
et tu sers à quoi à Gameblog?
Qu'est-ce que c'est que
tu conduis pas de bus, tu machin. Ça.
Mais je conduis le bus des podcasts. Hein. C'est grâce à moi que vous êtes arrivés ici.
C'est vrai. Vrai. C'est
tu
vrai.
Nous as amené à bon port.
j'ai envie de retenir enfin le mode multijoueur du, enfin le premier mode multijoueur de Splinter Cell. Ouais. C'était Pandora Tomorrow. Ouais, là, c'était extraordinaire. Et là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une formule où tu t'imagines pas trop forcément un truc multijoueur. Les mecs, ils se creusent les méninges et puis ils arrivent à te sortir une formule qui fonctionne et qui est juste super.
Originale et rafraîchissante.
Originale, intéressante.
On rappelle un peu pour ceux qui
en gros,
pas,
alors ça, génial.
C'était intéressant.
Donc, Pandora Tomorrow, donc c'était encore une fois développé à Annecy, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Par une autre équipe hein, que le jeu de base qui était développé lui au Canada. Et donc, tu jouais en fait, il y avait deux espions contre deux
mercenaires.
Ouais. Donc en gros, il fallait s'infiltrer dans un endroit et pirater des ordinateurs. Et donc, chacun avait des rôles différents et des façons de jouer complètement différentes. C'est-à-dire
bah,
que
déjà, il y avait une grosse différence.
C'était
les spies, voilà. Ils étaient en
voilà, les spies, ils étaient en vue troisième personne, ce qui fait que tu pouvais être pointé sur le coin d'un mur et voir un peu mieux sur le côté, etc. Alors que les autres, les sentinelles, elles étaient en mode first person avec des gros flingues. Alors que les spies, eux, n'avaient pas de flingues, mais ils avaient des tas de gadgets qui permettait de pirater différentes choses, etc. Et qui permettait surtout, grâce à leur capacité, leur habileté, en fait, de monter, d'aller dans les faux plafonds, etc.
Ouais.
Et chacun avait des moyens, en fait, de squeezer l'autre. C'est ça qui était génial. Bon, c'était sûr que c'était plus marrant de jouer les spies, c'est clair. Mais quand tu commençais à bien jouer, c'était marrant aussi de défendre. En fait,
ils ont eu du mal
jouer.
À l'équilibrer, mine de rien.
Ils ont eu un peu de mal.
Tellement
ouais.
difficile.
Surtout sur la fin où les mecs ont trouvé les bugs, où tu pouvais sauter sur les gars, etc. Et c'est un peu ce dont j'ai peur avec Assassin's Creed Brotherhood, que je trouve super sympa.
De toute façon, c'est toujours le problème à partir du moment où les mecs n'ont pas les mêmes armes. Hein. Mm. C'est un problème.
Voilà. Mais en même temps, ce que j'aime, et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand les mecs ils essaient de trouver un truc qui n'existe pas et que ça fait un truc fun.
Non, mais c'est pour ça.
Et ça, c'était parfaitement le cas.
C'est pour ça que c'est un vrai. Enfin, chaque jeu multi a le problème de WoW à. Enfin, n'importe quel titre où t'as, ou à Heroes of New Worlds, t'as toujours un moment où tu dis putain mais la communauté en fait quand tu testes le jeu t'as 50 gars max qui vont essayer le truc et puis bon tu balances et il y a des millions de joueurs qui vont retourner le jeu s'il y a une merde c'est évident qu'ils vont le trouver. Blizzard ils ont beau être super forts bah dans Starcraft 2 il y a des races qui sont trop fortes, il y a des
mais sortent, Starcraft 1 etc. ils ont continué à le patcher jusqu'en janvier 2009.
Non mais voilà quoi, donc
mais tu sais,
c'est jamais évident.
Il y a un truc qui me revient à l'esprit du coup, c'est en rapport avec PlanetSide. Donc j'ai joué quelques mois quand même et en réalité j'en garde un bon souvenir, je vous en parle tout le temps.
C'est vrai.
Mais j'ai réellement trippé sur une demi-heure. Voilà, une demi-heure pendant
trois
mois.
En fait.
Et c'est ça qui est
passionnant,
c'est que ces jeux-là, en fait, ils ont un potentiel de code d'amour auprès du joueur qui va le pratiquer, qui est énorme. C'est-à-dire que moi, je ne retiens que ça parce que c'était vraiment extrême, quoi. C'était un moment où on était, bon, toute la salle était pleine. Hein, on était, je sais plus, c'était combien, PlanetSide 64 joueurs, je crois.
Ah non, PlanetSide, c'est un MMO, donc ça pouvait être beaucoup plus. Hein.
Non,
c'était un MMO FPS, PlanetSide.
C'était donc, limité. Hein, c'était...
Non, mais c'était limité par la zone.
Ouais,
mais sur un combat.
Oui, après, t'avais les. Mais
sur
la zone de bataille, je crois que c'était 64.
Peut-être, ouais, j'ai un doute. Je me rappelle plus,
j'en sais rien. Enfin, bref, on était très, très nombreux et il y avait un côté héroïque, mais on le fabriquait. C'est ce que je disais avec la narration tout à l'heure, on le fabriquait nous-mêmes. C'est-à-dire que il s'est passé des trucs, tu vois, il y a un vaisseau qui s'est crashé à tel endroit, qui fait qu'on a déplacé le truc de spawn, machin. Enfin, il peut se passer un milliard de choses, c'est émergent, et c'est ça que tu retiens, et ça fait comme une petite histoire en fait. Et avec un truc à la con, c'était un shoot, quoi, tu vois, il fallait prendre une base, etc. Mais il y avait quelque chose d'héroïque dans la façon dont on a progressé mètre par mètre, et on est arrivé finalement à prendre la base. Et ça, voilà, on s'est créé une petite histoire. C'était une demi-heure sur, je te dis, 3-4 mois de jeu. Pas intensif, mais presque. Et je retiens que ça, parce que c'était vraiment énorme et c'est un très très grand moment. Donc je pense que le jeu en ligne a un potentiel énorme, mais qui est confiné à l'intérieur de.
Mais quand on n'arrive pas à l'extraire.
Parce que le truc était trop large en fait, les zones étaient trop grandes, etc. Parce que ce que tu cites, c'est ce qui se passe quasiment une fois par heure dans un Bad Company 2, tu vois.
Ah,
où les mecs
joué,
arrivent à 5 dans un hélico.
Beaucoup, mais...
Nous on a fait des trucs qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait réparer les hélicoptères en vol. Putain, ça a changé le jeu, quoi. Tu fous un ingénieur à la fin avec sa pauvre. Il est en train de réparer l'hélico pendant qu'il se fait canarder. On a fait genre. Ou je suis pas sûr qu'il l'ait vu, ça, les développeurs. Oh, ouais. Ça va être moche.
C'est un peu, ça sent le
truc
triste,
principal, c'est d'arriver à prendre n'importe quel joueur, le mec qui va jouer des milliers d'heures, et le mec qui débarque et qui a une femme, des enfants, tu vois. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Oui, oui.
qui a pas trop le temps de jouer, etc. Et d'arriver, en fait, à lui donner l'impression qu'il est utile à l'ensemble des gens qui sont là.
Et pour ça, c'est ce il suffit d'aller chez Hertz et demander un trousseau de clés de bus.
C'est, non, non, mais c'est pas ça, mais c'est vraiment le truc qu'ils n'arrivent pas à faire. C'est
que chacun trouve sa place, quelle que soit la façon dont tu consommes.
Parce que dans un MMO, t'es toujours dégoûté. Dans un FPS, t'es dégoûté parce que tu te fais trucider la gueule dans un MMO. Parce
mais
que
ça, c'est
y a des mecs plus puissants que toi et qu'ils font des trucs plus intéressants que toi, ils peuvent pas t'emmener avec eux, etc. Enfin, tu vois. Et donc, tu te sens mis de côté si t'es pas de tel ou tel.
C'est ce que j'aimais pas quand les FPS ont commencé à mettre du grinding pour débloquer les armes, etc. Ça m'a gavé.
Merci Julo. Mais c'était une belle séquence.
Il y a Fast qui veut casser par terre toute la séquence.
Je voulais juste parce qu'en fait, j'avais pas compris qu'on parlait des jeux multi de manière générale et pas juste les trucs récents. Donc
ah non,
pas
non,
que
non.
Je
ah,
passe
ah,
pour
non.
quelqu'un qui joue qu'à des jeux d'autistes. Mario Kart aussi, beaucoup. On y a beaucoup joué à l'époque de
Steam.
On
avait une règle spéciale.
Ah bon, c'était quoi?
Celui qui gagne boit.
Ouais.
Ça permet de niveler le niveau très très vite.
C'est pas con du tout, ouais. C'est pas con du tout.
Il y avait du challenge, ouais. Mais donc voilà, oui, beaucoup Mario Kart aussi. Donc. Des jeux multi sur un.
Ah, Julo vient de gagner à Mario Kart.
Il n'a pas réussi à finir sa gorgée.
Donc oui, les jeux sur canapé aussi avec les potes autour, c'était aussi un truc appréciable. Et c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup sur PC malheureusement. C'est cette possibilité de pouvoir partager en dehors du hot seat, qui est quand même pas très très fréquent. De
le PC n'a jamais été fait une plateforme super conviviale. Ouais. Hein.
Mais Worms, moi j'ai passé des heures.
Oui,
Worms, sur PC,
voilà,
à
Worms,
sur
c'est
PC.
Vraiment le dernier exemple.
Mais Worms, c'est un des rares, mais il vient de l'époque où j'ai envie de dire que Worms, c'est un jeu qui vient de l'époque des Amiga et compagnie.
Ouais.
Et en fait, c'était des consoles de jeu avec un clavier, donc.
Oui, mais enfin, c'était.
Ah, bah justement, Raon, puisque tu en parles, c'est le moment, voilà, c'est ton moment, c'est ton instant, profites-en, vas-y, fais-toi kiffer.
Mais alors, moi, j'ai. Déjà, de base, en matière de multijoueur, pour moi, c'est la LAN qui est le meilleur des deux mondes, parce que tu peux jouer à beaucoup, et en même temps, t'es quand même. T'entends les autres gueuler. Genre, quand tu fais une partie de Counter-Strike avec Trace qui braille, c'est pas pareil que quand tu joues en ligne chez toi, quoi.
Ah, alors, tout le monde n'a pas Trace sous la main.
Ouais, c'est ça. Vous pouvez le louer pour pas très cher, mais.
Putain, voilà, business model.
On
vous loue Trace, et je vous jure, c'est drôle.
Ah, je vous jure, n'importe quel jeu devient fantastique.
C'est un peu ça. Donc, effectivement.
Il faut avoir des murs un peu blindés, hein, parce que sinon.
Ouais, il faut pas que les voisins se plaignent aussi du bruit.
Le Trace en appartement,
ça faire beaucoup de bruit. Mais.
Il y a les enfants aussi.
Il y a les premières parties en fait en réseau. Donc pour moi c'était Duke Nukem 3D. C'était juste
des grossièretés.
Fantastique.
Non, mais qu'est-ce que pourquoi ça
Ils ont fait un truc tous les deux. Donc première expérience en réseau où tu découvres effectivement que tu peux jouer à 8, 9 ensemble à se tirer les uns sur les autres, ça c'était génial. Et je garde un souvenir impérissable du début de WoW quand en plus ça a été en deux fois, on a fait la bêta d'abord. Donc la bêta déjà c'était cool parce que tu t'es un peu privilégié et tout. Et puis quand il y a eu le launch, on a eu la chance d'avoir nos clés un petit peu en avance. Donc on a commencé 2 heures avant la sortie officielle.
Oh mon dieu, quel souvenir extraordinaire.
C'est marrant parce que moi j'ai pas du tout accroché par la suite, mais je me souviens vraiment bien de ce moment là où on était à rafraîcher sur les trucs de serveur.
Ding,
on était en train
ding,
de...
ding.
Putain, ça y est, c'est bon, j'y suis et tout. Et je me souviens très bien des premières heures de jeu où on était ensemble et où c'était super fun. Après, j'ai un peu décroché, mais oui.
Mais tu vois, ça c'est des moments vraiment. C'est un petit peu comme ce que disait Julo sur PlanetSide. C'était un moment vraiment unique qui ne se reproduira pas particulièrement parce que c'était une époque, c'était des gens, c'était un MMO en particulier et puis et c'est un truc que tu fais qu'une seule fois quoi. Enfin, après quand tu l'as déjà fait c'est plus pareil, même quand tu recrées un personnage t'es pas 15 personnes en même temps essayer de dinguer le plus vite possible.
C'était vraiment hallucinant l'ensemble de trucs qu'on fait ce launch, un moment un peu magique quoi.
Ouais.
C'est entre le titre, le jeu, l'époque et la technologie qui ont permis ça. Enfin, tout était réuni pour que ce moment soit.
Je me souviens qu'on était sur IRC, qu'on se parlait, qu'on attendait de savoir qui allait pouvoir commencer à jouer. Et puis quand on a pu commencer
j'avais
à jouer,
j'avais MSN.
J'ai en fait toujours toute ma vie de mon premier Undead.
Les seuls messages. Nous aussi, on
était ensemble. Et voilà. Et par contre, après, je m'en souviens.
Premier quoi ?
Undead. On a joué Undead au moment où le jeu. Où c'était le
C'est la race.
Ah, Undead dans World of Warcraft. D'accord, ok.
C'était extraordinaire.
C'est un noob.
Je suis level 8.
Quoi, mais je suis level 5. Comment tu fais
Ah, c'est comme
et
quand
en plus,
nous
on avait les autres sur
IRC
qui étaient là. Putain, j'arrive pas à me connecter. C'est pas grave, nous on level tranquille.
On mettait bien l'impression sur les pauvres.
Mais voilà, c'est le côté fun du multi quoi. C'est justement la compétition permanente et puis de pouvoir un peu se tirer la bourre avec des potes et tout. C'était vraiment ça quoi.
Et il y a un autre côté qui est sympa, c'est d'arriver. Je suis désolé, je fais toujours des trucs un peu zarbi, mais. Moi j'ai joué à Final Fantasy XI, j'y ai joué. J'ai plutôt kiffé, à vrai dire. Et tout était basé sur un truc, ça emmerdait tous les gens qui avaient l'habitude du PC, c'était le Play Online Viewer, etc. T'as une interface obligatoire,
bon,
etc. Mais en fait, moi je prends le truc et puis je me dis, ah en fait c'est sympa, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et tu peux faire des cartes postales, envoyer des mails avec des photos, des machins et tout. Et en fait, donc moi j'ai joué avec Emeric, hein, Mimic, qui est aujourd'hui sur Gameblog. À l'époque, voilà, on était collègues et donc on
aujourd'hui
joue
aussi.
Oui. Non mais à l'époque, oui, c'est... non parce qu'il y a un trou entre les deux. Enfin bref,
un trou qui sépare deux hommes, bizarre.
Ouh là là.
Un trou spatio-temporel.
Non, continue.
Donc on jouait à Final Fantasy 11 et puis on découvrait le jeu en même temps et on a fait nos premiers levels ensemble, etc. Et évidemment, tu peux arriver à différentes zones, etc. J'ai joué un petit peu plus tard que lui un soir et puis j'ai juste débloqué une nouvelle zone parce que je pouvais y aller grâce à mon niveau. Et donc j'ai pris des photos en fait de tout l'endroit où j'étais. Et il y avait ces nouveaux monstres et tout qui ressemblaient à des girafes, je sais plus comment ils s'appelaient. Et je les ai pris en photo, etc. Et du coup, j'ai écrit un mail par le Play Online Viewer à Mimic et je lui ai fait salut Mimic, voilà, écoute, j'ai finalement atteint le machin, tu dois être en train de dormir, mais écoute, j'ai découvert des régions extraordinaires, des nouveaux monstres, etc. Et puis à chaque fois, je mettais une petite photo et j'ai mis le truc en page et tout. Et lui, il a reçu le truc, il m'a appelé le lendemain, il fait putain, Julot, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé, il va s'en rappeler.
T'as inventé le post de ça. Blog de Nemo avant l'heure.
Je lui ai envoyé une carte postale en fait, quoi, voilà. Ouais, et ça c'est le genre de truc qui me plaît, voilà.
En fait Julo c'est le genre de mec, il est capable d'installer EverQuest juste pour jouer au jeu de cartes à la Magic en fait, qui est dedans, mais jamais au jeu en fait.
Raon, est-ce qu'il y a d'autres titres que tu voulais citer?
Ceux-là c'est vraiment bah après tout ce qui est multijoueur local, moi Street ça restera pour moi une des meilleures expériences multi qui existe, quoi. Enfin les Street et autres jeux de baston similaires évidemment, mais
ouais, moi c'est comme les ISS à l'époque avant que ça s'appelle PES.
Oh, putain,
à la rédaction,
on a pas cité
parce que
ISS,
c'est du multi, hein. Alors c'est pas c'est du local pur, hein. Mais alors les jeux de foot, qu'est-ce qu'on a passé de temps à se faire des fichiers Excel de score, à péter des murs, des manettes et des machins.
Et surtout très d'ailleurs.
Je crois que les jeux de foot,
oui,
après les jeux de baston,
c'est
les jeux où café le plus relou en fait.
Ouais. Bon, écoute, il y a des gens, hein,
il y a des gens qui ont failli casser des murs en fait.
Il y a des gens en fait parce qu'en fait, bon voilà, j'explique, mais on a déjà raconté ce truc là, mais en fait, je suis très très mauvais aux jeux de foot. Mais vraiment
tu peux
mauvais.
Pas être plus mauvais que moi.
Alors, on doit être aussi mauvais l'un que l'autre.
Non,
raison,
je suis plus mauvais
bon,
que
d'accord.
Toi. Moi, j'arrive pas à mettre un penalty.
Ah non, d'accord. Ouais,
mais dans
les
PES, c'est normal. Hein,
en fait, moi, j'avais développé une technique quand je bossais dans une rédaction autre où il y a un moment, je perds 3-0 contre un mec. Et là, tu vois la puissance du multi et de la tchatch en multilocal. C'est que le mec, je le regarde, je fais putain. Non, 2-0, il gagnait. Là, je le regarde, je fais putain, ce qui est con quand même, c'est que tu vas perdre 3-2, quoi. Hein. Et je l'ai tchatché comme ça, 3-2, 3-2, 3-2. Et le mec était là, mais jamais de la vie. Et bon, il est super facile à faire monter en charge. Salut Kim.
Kim, c'est
et du coup, je le regarde. Et là,
c'est Kim. Ah, oui.
Et là, je le regarde et là, je fais. Et là, je fais.
Oh putain, c'est chaud.
Et là, je commence à mettre un but, et puis deux buts. Et puis après, il y a deux buts, mais juste avant les arrêts de jeu, tu vois. Donc là, arrêt de jeu. Et puis là, c'était golden goal, tu vois, les settings des règles. Puis là, je mets le troisième but. Et puis, tu sais, j'ai juste posé la manette, je fais. Je te l'avais dit en même temps. Et je me suis cassé. Et là, il a pété. On avait un Yakuza, un perso taille de
oui,
Tekken.
Ah bah oui, non, mais c'est oui.
Kazama. Ouais. Et c'est là où il a pété. C'est là où il a
Jin Kazama a perdu un bras.
Il a perdu un bras.
Putain, c'est chaud.
Et bon, je l'ai fait plusieurs fois, donc j'étais connu pour ça. Et des jeux de foot pour ça, c'est extraordinaire.
Ouais.
Bah justement Caf, toi, t'es spécialiste du multi sur, tu l'as dit, hein, depuis plus de 15 ans, sur
oui,
qualité du multijoueur exceptionnel.
C'est mon côté Olivier de Kersauzon du jeu vidéo.
Ouais.
Mon plus gros souvenir dans l'histoire, ça va être Quake World, les tout débuts du multi où on commençait à se friter sans être ensemble en fait dans le jeu. Pour moi, je trouvais ça magique. Enfin, c'était juste magique, quoi. On jouait avec des mecs et c'était pas des IA et on se faisait fraguer. C'était un humain derrière qui te fait rigoler derrière son écran. Je trouvais ça assez extraordinaire. Et après, en avançant, bah, c'est vraiment des histoires aussi de potes et de jeux. Bah, Tribes avec Chris.
Ah ouais.
Tribes,
ouais.
Chris et moi, on était des grands.
Mais l'ancêtre de PlanetSide.
Mais
d'ailleurs.
C'est le même mec en fait. En fait, Tribes 2, PlanetSide, c'est un mec qui s'appelle Youngblood et en fait, c'est lui qui fait Firefall. C'est pour ça que j'ai fait donc le MMO Firefall et quand j'ai vu l'annonce de ce truc-là, j'ai fait genre ok, je fais la news sur Gameblog maintenant parce que bah, ce mec, voilà, quoi, il m'a fait rêver. Alors même s'il se plante, j'en sais rien, on verra, mais c'est des genres de jeux où à chaque fois il arrive à amener un petit truc.
C'est en marge du reste du genre. Ouais.
Voilà, exactement. Et après, ça va être moins des trucs qu'on a cités, mais Counter-Strike, le premier pour moi, c'est.
Vous vous souvenez pas de la bêta, sans déconner, comment on jouait on avait la chance d'avoir un réseau local à la rédac et c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est qu'à l'époque d'un Duke Nukem 3D, les gens, c'était rare de pouvoir jouer en réseau, surtout au boulot. Donc
c'est clair,
bon.
Non, mais on faisait les pauses Counter Strike, c'était n'importe
bien
quoi.
Bien sûr, c'était...
Et
ça m'a vite gavé, je sais pas
j'ai
pourquoi.
Peut-être parce que tu perdais.
Voilà.
Non, sinon,
déjà,
il y avait un truc rigolo.
Il
n'y
a pas de bus, c'est de la merde, votre jeu.
Dans la vieille rédac qu'on avait, en fait, quand il y avait eu Warcraft 3,
oh là là,
qui
oui.
est sorti. Et ce qui était génial, c'était de faire gueuler Raon qui était complètement au bout du couloir. Et quand t'arrivais à faire gueuler Raon complètement au bout du couloir, tu savais que t'avais fait une bonne partie.
À la fois, c'est pas celui dont la voix porte le moins. Hein, mais
c'est sûr. Non, mais ça, c'était hyper
tu
drôle.
Tu te souviens de ce contournement d'Archéelf autour de la forêt?
Non, fantastique. Est-ce que tu te rappelles de Taras et de ses forêts?
Taras est un homme, hein, je précise.
Oui, c'est un nom.
Taras, c'est pas juste
un pseudo. C'est un pseudo.
Et Captain. Et en fait, lui, il avait fait une partie, c'était génial. On arrive sur sa base, on fait bon, alors il reste plus que lui, il sait pas jouer, ça va être génial. Et en fait, il avait fait que des tours. Mais que des tours, mais je te promets. Oui, et là, j'ai jamais vu autant de tours de ma vie.
T'as tous les autres qui sont autour et qui font bon, on refait quoi?
Et bon, voilà, c'est des souvenirs à la con, mais putain, c'était vraiment marrant. Et lui, en fait, il ricanait devant son PC pendant tout le truc. Et il avait fait ça avec Pomme de Terre, je me rappelle. Et en fait, tous les deux, ils étaient là, genre. Et ils ont fait que ça. T'arrives sur leur base, tu fais genre, les gars. Bon, on les a rasés ouais. quand même, mais c'était long. Donc, c'est, voilà, ça, c'est des trucs de multi à la con. Et après, bah, l'expérience WoW, comme tout le monde. La découverte des MMO, donc juste avant WoW, j'avais.
Oui, parce qu'en fait, avant WoW, t'as jamais accroché, tu chiais sur les MMO, tu disais
en fait,
j'ai
même. Moi, le truc, je me rappelle d'avoir testé EverQuest 1 à la sortie et Meridian 59, donc les tout premiers. Et là, j'arrive, on fait un héros, c'est moche. Enfin, déjà, la 3D est en retard par rapport à ce qui existe dans le monde des FPS. Et là, on m'arrive et puis on me dit rien en fait. Et là, un mec, il me dit ouais, non, tu vas buter des serpents à la sortie des villes.
Oh, c'est passionnant.
Et j'ai regardé,
j'ai
fait.
Pourquoi je ferais ça?
Je suis un héros, je vais buter des serpents à la sortie de la ville, va te faire foutre.
Bah attends, t'as pas fait UO, tu t'es tapé des lapins là. Les lapins, ça vient de là. Hein. Toute l'histoire des lapins, c'est Ultima Online voilà. au départ, c'est vraiment tu butais des lapins et tu pouvais crever très facilement.
Non, mais bien sûr, mais attends, c'est pas le problème. C'est qu'en fait, on t'explique pas. En fait, le truc, les premières quêtes dans WoW, on essaye de te scénariser le truc et on t'explique pourquoi t'es là.
Non, mais déjà, quand t'arrives et que tu vois des mecs avec des points d'exclamation jaunes sur la tête, tu fais.
Voilà. Alors que là, on n'a pas du tout par la main, c'est ce qu'on reproche à FF14 énormément. FF14, le mec il te file une quête, il te dit ouais, tu vas aller là et tu vas faire ça. Et puis après, tu regardes ta carte et tu fais c'est où, comment on y va, où je suis, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Il faut intégrer le fait qu'effectivement, il y a toute une catégorie de joueurs qui aiment découvrir, donc qui aiment chercher la sortie de la ville.
Mais c'est pas antinomique avec le.
Mais il y a des mecs qui aiment bien qu'on leur dise un peu bon, c'est par là, ok, d'accord.
Bah dans Shenmue, tu cherches la sortie de la ville.
Ah putain,
c'est
ouais
sûr, c'est bon, pas ça.
C'est véridique. Hein. Moi, je le casse pas comme ça, genre ah, c'est la fin. tu cherches à prendre le bus pour sortir de la ville.
Pour prendre le bus en plus.
Sur les jeux multi, il y en a énormément, mais c'est moi, je joue à 90% à des jeux multi. Et c'est pour moi, ça reste. Un plaisir.
Mais c'est marrant parce que moi avant, j'ai joué pendant une grosse période beaucoup plus au multi, et plus ça va là, et moins je joue au multi. Parce que j'ai. Non mais.
On s'en fout!
Non mais t'as raison!
Mets-lui un pain!
Oh la joue finale de podcast! Dont on se fout totalement!
On a faim, on se barre!
Non mais j'aimerais bien, en fait.
Tu préfères le pain ou la baguette?
Ok, c'était donc un podcast professionnel. Vas-y, filme-moi, je vais finir ce podcast.
C'est perdu.
À la base, j'ai pas dit ça pour rien, c'était pas juste pour dire ce qui se passe pour moi. C'est pour dire que toutes les expériences qu'on a citées là sont souvent des expériences dans lesquelles on a investi du temps à une époque où on pouvait le faire. Et je trouve que ça manque de jeux multi qui sont faciles
plus
à consommer.
Ouais.
D'où mes espoirs sur le jeu de sniper.
Et Assassin's Creed Brotherhood, franchement, pas mal dans le genre.
J'y crois.
Poufy! Allez, c'est la fin du podcast, ouais, viens, je suis désolé, viens deux secondes. Si, viens, je vais chercher physiquement.
Attention,
allez, viens.
Casse pas les trucs.
Hop, viens Poufy, je m'occupe de la caméra pour la fin. Partage avec nous quelques instants quand même tes émotions et tes impressions sur les jeux multi, parce que toi, tu y passes quand même beaucoup de temps.
Bonjour déjà.
Je vais gérer la caméra.
Salut Poufy.
Bonjour. Alors moi, si il fallait que je retienne une expérience
de multi,
de jeu multi... J'essaie de m'exprimer correctement.
Vas-y, Poufy.
Donc c'est sur Dreamcast.
Ah ouais. Ah.
Te faire bien déjà.
Au début du millénaire. Attention.
Et ouais.
L'arrivée du c'était l'arrivée du micro casque. Non, il y avait pas de casque. C'était juste un micro.
C'était juste un micro, c'était si mal.
C'était sur Planet Ring.
Waouh, je sais même pas ce que c'est.
Oula. Et en fait, c'était un jeu de réflexion avec plein de petits mini-jeux. Et c'était la première fois en fait où on pouvait parler à quelqu'un sur console. Et je me souviens d'un jeu, c'était un jeu de... On n'a pas beaucoup parlé de coop. C'était un jeu de coop. C'était un jeu de coop donc à deux joueurs. Il y avait un mec qui regardait, qui avait une vue d'ensemble sur un labyrinthe.
Et qui devait guider l'autre.
Excellent.
Bah tu vois, mais ça par exemple.
Je me rappelle pas de ce truc, c'est marrant.
Comment ça s'appelait,
Planet Ring.
Planet Ring.
Putain, ça me dit rien du tout.
Vendu avec un micro.
D'accord.
Et donc voilà.
Et ça, ça t'a marqué, ça, comme expérience, alors
ouais, ouais.
À cause de surtout de la voix et du fait que tu dialoguais avec quelqu'un que tu connaissais pas.
C'est un anglais.
Ah merde.
Il y a joué une fois, c'était le début d'une histoire d'amour.
J'avais 12-13 ans.
Ça t'a pas intimidé?
Bah si, un petit peu quand même.
Mais maintenant ça va mieux avec les micros. Hein.
Ouais.
Tu sais que le chewing-gum c'est interdit en fait. Oui, normalement, il l'a fait une fois sur un truc, c'est le bordel.
Alors si vous voulez rigoler, il faut aller voir. Donc c'était quoi? C'était les impressions. Les impressions de DJ Hero, voilà. Ou Fast Kill machin chewing-gum. Et moi aussi d'ailleurs.
Et vous prenez tellement cher dans le forum.
A raison, mais bon,
c'est clair.
Et donc tu retiens ce jeu-là en fait pour ta plus grosse expérience de jeu en ligne. Et même pas Phantasy Star Online.
Si, bien
ah
sûr.
Si, quand même. C'est très Dreamcast en fait. Toi. C'est la Dreamcast qui t'a fait découvrir le jeu en ligne.
Bah, ça a fait découvrir à tellement de joueurs consoles qui
moi j'ai découvert le LAN avant. Pour moi c'était une autre planète, mais effectivement le jeu en ligne vraiment c'était la Dreamcast aussi.
Et son modem pourri.
Et mon modem pourri. Et qui faisait très bien tourner. D'ailleurs j'ai jamais compris. On en parlait ce midi d'ailleurs. Pourquoi Phantasy Star Online marchait bien avec ce putain de modem, et pourquoi Chuchu Rocket il y avait du lag? Parce que c'était mal foutu peut-être.
C'est un métier de coder des interfaces réseau. Hein. C'est un vrai métier. Il y a des codeurs qui sont spécialisés dedans, ils sont payés très très cher.
Et ton jeu du moment maintenant, c'est quoi en ligne, Poufy?
Battlefield Bad Company 2, tu y joues encore beaucoup, non?
Oui, voilà celui-là.
Battlefield.
Je joue de temps en temps.
Lequel? Attends, je m'entends.
Bad Company.
Bad Company, mais il est fantastique. Il est tellement bien. Ouais. Et sinon, tu humilies les gens à des jeux de bagnoles.
J'humilie pas, non, je suis pas.
Non, mais là, t'as perdu le dernier défi, dis donc.
Bah oui. Parce que.
Ah, mais t'es pas au courant. Tu t'es bien gardé de le dire.
Il s'est fini dimanche dernier, donc il y avait des lots à la clé. Donc forcément, ça motive. Hein.
Et là, les gens motivés sont arrivés et ils t'ont gratté.
Donc, et tu as Assassin's Creed aussi. Hein.
Assassin's Creed.
Raconte ce qui t'a fait, Julo, Poufy.
Viens voir le docteur, Poufy.
Parce que tu vois, il commence, Poufy, il explique que sa première expérience est avec le micro et ça lui est resté jusqu'à aujourd'hui parce qu'il l'utilise bien, le micro.
Ouais. Oui. Tu veux raconter, Poufy? Vas-y.
Comment tu me tues?
Alors, je sais qui est Julo dans Assassin's Creed. Chacun a son perso, machin. Je sais la tête qu'il a. Je m'approche.
Le docteur, c'est moi.
Il sait pas qui je suis. Ouais. Il sait pas que je vais le tuer.
Il me parle pas de toute la partie parce que.
Et je fais.
Julo. Et moi, comment qu'on là... fait? Ouais, et là.
Et là, je le trucide.
Et il le fait à chaque fois maintenant. Voilà. Que...
Les petits plaisirs de jeu multijoueur. Ouais. Ah, okay. J'imagine trop la petite voix. Julo, oui.
Ah là 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 là.
Bon voilà qui conclut bien notre podcast. Ça cadre tout seul maintenant.
Ouais c'est ça, c'est automatique. Alors attends voilà. Bah je pense que c'est à l'image vraiment de ce podcast hein, dédié au multi. Il y a eu des beaux échanges, des éclats de voix, de rire.
Sur un canapé, voilà c'était voilà.
Exactement. Ah c'est ça le multi, c'est aussi ça le jeu vidéo.
Ouais parce qu'on va faire des podcasts en ligne maintenant, online, chacun de notre côté. Chez
c'est
nous,
ça.
Voilà,
avec. C'était donc le dernier podcast fait comme ça.
Parce que bon voilà, il faut passer à la vitesse supérieure des fois.
Et puis podcast 155, ce sera officiellement et historiquement le premier podcast avec Poufy au son et à l'image. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un beau nouveau podcast. Merci CAF, merci FASC pour cette expertise du PC et du multi que vous nous avez apporté, et puis cette bonne humeur. À rendez-vous là, la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, dans les forums, vous pouvez commenter, donner vos meilleures expériences de jeux multi, forcément vous en avez plein. À très bientôt, en audio ou en vidéo pour les premiums. Ciao.
Salut.
Et jouez bien.